Nous sommes mercredi 28 juin 2017, il est 21 h, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Enfin dans l'ordre alphabétique, bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mortal. Ah non, merde, c'est moi. Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Zergy, à qui je renouvelle le remerciement que j'avais fait en off, puisque c'est grâce à Zergy que. Enfin, qu'il a le tweet du jour. C'est lui l'auteur. Effectivement, Nintendo est en train de tailler les croupières à tout le monde avec la SNES Mini. Ce ne sera pas le sujet de cette émission. On va vous faire un petit bilan sur l'événement Post-3 de Nintendo. On a pu essayer beaucoup de jeux, pas tous. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas en version jouable, malheureusement. On reviendra à ça sur la deuxième partie de l'émission, mais on va commencer d'abord par notre tour de table de l'actualité, et on commence, une fois n'est pas coutume, par Drosgar et Galaxies, qui ont des choses à nous dire sur l'Expo Game.
Oui.
Je vous laisse la parole.
Alors, Expo Game, qu'est-ce que c'est?
Ça part très mal.
Pourquoi elle était ici?
C'est une expo organisée par Jean Z, donc un journaliste de chez France Info. Qui anime une petite émission hebdo sur le jeu vidéo donc en ce moment il organise donc une exposition à l'espace EDF, à la fondation EDF pardon, qui s'appelle Game, le jeu vidéo à travers le temps, qui présente donc tout un tas de jeux de la toute première console, donc la Odyssey, à la PS4 en fait, parce qu'il y a une sortie de 4. Je vais faire l'agencement de l'expo. Ouais, de l'expo. Et puis après, Drosgar va parler des jeux un peu qui étaient présents. L'expo, elle est divisée en trois étages. Il y a le premier étage avec les jeux qui sont, comment dire, c'est des jeux qu'on pourrait qualifier, ouais, de, c'est des jeux qui nous sont contemporains. Dès qu'on entre, devant nous, on a un très grand écran avec Uncharted 4. À droite, il y a des figurines de Watch Dogs 2, donc qui détaillent en fait le pas le développement,
l'évolution en fait entre,
ouais,
entre les personnages qui étaient avant avec peu de polygones et les personnages qui existent maintenant. Donc à l'époque, il n'y en avait que 64 par exemple, et c'était très peu détaillé.
Le processus créatif en fait en soi de Marcus, donc le personnage principal de Watch Dogs 2. Pareil sur la droite, il y a, alors c'est 5 ou 4 jeux FIFA. De la Master System à la PS4, donc avec FIFA 17. Sur la gauche, on a tout un tas de portraits de game designers, dont Shigeru Miyamoto. On a aussi une borne Outrun, donc le jeu Sega.
Très sympa d'ailleurs.
Qui est très très sympa, ouais. Et il y a aussi Dance Dance Revolution, sur lesquels on s'est fait poutrer la gueule par un gamin.
Il avait 11 ans,
agréable.
Je crois.
Non, mais il avait 11 ans, s'est fait éclater nous deux par le gamin. C'était très agréable. Mais manifestement, il passait toute sa journée sur Dance Dance Revolution. Ensuite, trois étages. Donc ça, c'était l'étage, le rez-de-chaussée. Au-dessus, il y avait pas mal de jeux rétro. Avec aussi des figurines, il y avait des vitrines en fait avec tout un tas de figurines, donc des jeux un peu à la Skylanders qu'on a eu ces dernières années, mais aussi des amiibo. Donc il y avait les figurines de Disney Infinity, Lego Dimension et tous les Skylanders, évidemment des amiibo. Il y avait aussi des grosses plaquettes avec des accessoires, donc comme le gant pour la
Power Glove.
Ouais, le Power Glove.
Il y avait aussi la fameuse manette de la Wii. Machine à coudre, pardon, de la
machine
Game Boy.
Machine à coudre, ouais, de la Game Boy.
Ça devait être sympa, ça, parce que ça, c'est le genre d'accessoire qui est pas si évident que ça à retrouver aujourd'hui, en plus.
J'ai pris quelques photos, mais avec la lumière qu'il y avait derrière, on voit pas très bien.
C'est vraiment une machine à coudre, quoi, vraiment. Moi, je me suis dit, un peu plus petite, en fait. Non, c'est la vraie. C'est une vraie machine à coudre. Et il y avait une Wiimote, un Nunchuk, une manette de la N64, de la première Xbox. Le Virtual Boy, le fameux, la meilleure console. Il y avait aussi donc tout un tas de jeux dont Drosgar va parler après. Ça partait de quoi? C'était de Pac-Man à Assassin's Creed 2. Il y avait des jeux à... C'est pas l'accéléromètre, c'est du... Si? Non. C'est un... Comment ça s'appelle? Un potentiomètre? Ah oui, oscillogramme, voilà. Qui jouait comme finalement comme le premier Pong en fait, et d'ailleurs il y avait une borne avec Pong qui jouait aussi à l'oscillogramme. C'était très sympa.
Un oscilloscope, monsieur.
Oui, un oscilloscope.
Pardon. J'étais non, presque. Mais c'est...
l'oscillogramme, c'est la machine, je crois. Et au rez-de-chaussée, enfin pas au rez-de-chaussée, au premier sous-sol, il y avait des jeux VR, enfin un seul jeu VR, Eagle Flight de Ubisoft, Pigeon Simulator. Il y avait des jeux mobiles.
Alors ça, c'est à peu près tous les jeux d'Ubisoft, en fait. C'est un peu problématique.
On se promenait dans Paris, c'était assez sympa. Et il y avait des reportages qui tournaient en boucle. C'était des reportages pareils sur les jeux vidéo, mais ça allait des années 80. Je crois qu'il y avait un reportage de 2010. Donc c'était plutôt cool. Et dans les escaliers aussi, il y avait des affiches de jeux. De vieilles consoles comme la Game Boy, mais aussi de vieux jeux, c'était très sympa. Voilà, et donc du coup, Drosgar, à toi.
Alors, déjà en fait, quand on rentre, il y a le Uncharted 4 qui est là face à nous. En soi, c'est intéressant pour voir, pour nous en mettre plein la vue dès le début, parce que forcément, la claque graphique est assez importante, surtout pour ceux qui jouent pas beaucoup, par exemple les parents qui viennent amener leurs enfants. Mais
le choix d'Uncharted 4 pour commencer me surprend toujours un peu, mais bon. Hein.
Il est très 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 joli, hein, Uncharted 4. Certes, surtout sur une télé énorme comme ça, il était vraiment. La manette était libre d'ailleurs.
Certes, mais tu vois, pour une exposition qui veut un peu rétro de jeux vidéo, j'aurais plus pris une vieille licence avec une version moderne, quoi. Bon, ça finit un peu jeu Nintendo, mais.
C'est l'histoire du jeu vidéo, donc je pense commencer en fait en tant que porte d'entrée par un jeu qui est très récent et qui qu'en fout plein la vue, je trouve que c'est assez pertinent en fait pour faire directement rentrer dans l'expo.
Après, ce que je reproche, c'est plus en fait l'aspect graphique du jeu, l'aspect visuel, la claque que l'on prend, c'est vrai que c'est important, mais en fait c'est plus justement le côté jeu d'aventure qui me gênait, dans le sens où on n'a pas le temps de vraiment voir le potentiel du jeu en faisant une partie de juste 2 minutes, surtout s'il y a du monde. Alors que c'est vrai qu'un jeu avec des petits niveaux par exemple, ou qui aurait été un peu plus court, j'ai pas forcément d'exemple en tête, ça aurait peut-être été un peu plus logique de ce côté-là pour un peu plus voir le potentiel du jeu et l'évolution. Là au final, on était coincé dans un endroit avec une petite partie dans la jungle, avec une cascade pas loin, on savait pas du tout ce qu'il fallait faire, on était totalement perdu au niveau de l'histoire, et on a pas vu du coup tout le côté cinématographique de la série Uncharted, et je trouvais que c'était un peu dommage par contre.
Ouais, parce que bizarrement, moi j'aurais plus mis une espèce de jeu open world ou un peu bac à sable, où là tu peux voir le niveau d'interaction qu'on a atteint en termes de jeux vidéo.
Minecraft HD ?
Ouais, il y en a pas de très joli. Ouais, mais le problème de Breath of the Wild, c'est que c'est pas la même claque graphique que... Et pareil, dans des sessions de 5 minutes, tu peux pas faire grand-chose dans Breath of the Wild, quoi. Tu te balades un petit peu, mais c'est pareil que dans Uncharted, au final. Enfin, en 5 minutes. Je veux dire, dans les sessions de 5 minutes, hein, je compare pas Uncharted 4 et Breath of the Wild.
Non, mais en termes d'interaction, Zelda est un peu plus poussé, c'est mon avis, mais bon, voilà, je vais aller plus loin.
Donc, les jeux présents
Donc au final, comme a dit Galaxy tout à l'heure, on avait les jeux de foot qui étaient là. On a fait une partie sur toutes les versions, sauf sur la dernière version de FIFA, pour voir un peu la différence. Et c'est vrai que le jeu de 93 sur Mega Drive était... déjà, c'était assez compliqué à prendre en main, en fait. Et c'est vrai qu'on voit justement... En fait, c'était vraiment une très bonne idée de montrer une évolution du même genre de jeu pour comprendre d'où on est parti et où on en est maintenant. Et au final, j'ai beau ne pas aimer du tout les FIFA parce que c'est des jeux de foot et j'aime pas le foot à la base. Mortal a bien vu ça l'après-midi. La veille, je veux dire. Au final, je préfère largement un FIFA de maintenant d'un FIFA d'il y a ne serait-ce que 5 ans parce que c'est tellement... Enfin, ça devient presque naturel, en fait, maintenant. Et tous les jeux deviennent comme ça, et c'est vraiment ce que l'expo nous a montré au fil du temps. Lorsqu'on allait à l'étage, on a commencé du coup avec les oscillogrammes, et on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire.
C'était horrible.
La version de Pong, par exemple, on avait une petite molette qui tournait, qui bougeait la raquette invisible. Du coup, on ne savait pas vraiment, en fait, enfin, qui bougeait une sorte d'angle de balle. On a mis vraiment du temps à comprendre, en fait, où on en était, ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, il n'y a pas de comptage de points, mais ça, bon, c'est encore autre chose.
C'était le tout... Tout premier jeu vidéo d'ailleurs,
C'était Tennis for Two.
Ouais, Tennis for Two, voilà. Le problème, c'est que avec l'oscilloscope, c'était pas du tout maniable. Parce que, en fait, il fallait trouver un angle de repère. Et à partir de là, on orientait la balle, mais c'était vraiment pas maniable. Et c'est vrai que oui, pour le coup, l'ergonomie et la maniabilité a évolué. C'est vraiment impressionnant, bah, notamment sur les jeux FIFA. Sur Mega Drive, le tout premier, c'était imbitable, quoi. Clairement, on savait pas quelle touche faisait quoi. Les joueurs,
du coup, on faisait pas sauter bien à chaque fois.
Ouais, voilà. Où on staclait. Et ça a fini sur 1-0 parce qu'un type avait réussi à marquer un but avant nous.
Et au final, on a vite l'évolution en fait à une partie un peu agréable de l'histoire du jeu vidéo.
Ah, ce Galaxy doit y aller apparemment.
Oui, c'est un pote qui m'appelait. Non, mais c'est pas grave, je dis. Désolé.
Avec justement du coup la série de jeux en partant de Pac-Man jusqu'à Assassin's Creed 2. Donc là, on a retrouvé aussi bien du Alex Kidd, du Donkey Kong, la version arcade sur NES, que du Tomb Raider ou du Halo. Et bien sûr, mon cher Mortel, il y avait le Sonic 1 sur Mega Drive.
Qui est très nul, c'est très mal designé.
Qui est vraiment, vraiment de la merde.
C'est un Sonic.
Non, mais, oui, mais d'accord, mais je veux dire, tout le monde s'extasie sur les Sonic 2D, mais je trouve que, à part Sonic 2, qui effectivement est, à mon avis, un jeu qui est plutôt bien foutu, même en termes de level design, commence vraiment à avoir un truc un peu sympa. Enfin, je sais pas, je pense que c'est vraiment le sommet de la série, c'est Sonic 2, c'est-à-dire c'est le jeu qui vaut quand même un peu le coup, c'est vraiment bien fait, vraiment pas de souci avec Sonic 2. Moi, je trouve ça un peu chiant sur certains niveaux qui sont ultra pénibles, mais dans l'ensemble, le jeu est quand même pas trop mal. Par contre, Sonic 1, je le trouve absolument atroce. Et après, la série a commencé à, de toute façon, se péter la gueule, c'est-à-dire Sonic 3, Sonic & Knuckles et tout ça, c'était quand même de la merde. Donc c'est intéressant parce que des jeux Sonic, il y en a eu qu'un seul de bien au final, c'est Sonic 2. Et quand je dis bien, je veux dire c'est bien, mais c'est pas top, quoi.
Et ouais, on l'a vu, le fait de le pouvoir tester, moi, ça m'a confirmé ce que j'avais testé, parce que j'avais déjà fait le premier Sonic, mais il y a longtemps, genre. Et vraiment, y a rien qui te pousse à la vitesse. Clairement,
ah, mais genre, ça a jamais, ça a jamais
été tant d'épique.
Non, mais voilà, mais en fait, faut voir que Sonic, c'est l'histoire des employés de Sega qui ont fini par croire le propre bullshit marketing de leur service commercial à se dire Sonic, c'est la vitesse. Sonic, c'est pas du tout la vitesse. C'est un jeu de plateforme qui est très exigeant, qui, sur le premier, je trouve, est pas toujours très bien branlé. Il y a quand même des gros soucis de design sur certains niveaux. Je trouve que le 2 est beaucoup mieux foutu parce que t'as beaucoup moins d'ennemis surprises, t'as beaucoup moins de choses comme ça, mais ça reste plutôt un jeu de plateforme de précision qu'un jeu de vitesse. Ça a jamais été... C'est le bullshit marketing de Sega. Et le problème, c'est que quand les gens commencent à croire leur propre bullshit marketing, bah effectivement, t'obtiens Sonic 3 qui est injouable, et puis toute la suite où à chaque fois on te dit Sonic, c'est la vitesse. Non, Sonic, c'est pas la vitesse. Jamais de la vie, ça a été la vitesse.
Après, justement, cette partie-là, en fait, de l'expo, c'était surtout pour mettre un coup d'éclairage sur tout ce qui est mascotte. Donc en partant au début avec les vraies mascottes qui n'étaient pas forcément humaines, et en se rapprochant peu à peu des vrais humains en fait qui viennent au jeu, donc en commençant avec Lara Croft et puis en finissant avec Ezio. Et c'est vrai que là on peut voir aussi une partie de l'évolution de l'histoire du jeu vidéo, avec un média qui, après qu'on comprenne dans le bon sens ou dans le mauvais sens, qui a un peu mûri en fait, qui se contente plus de petits animaux mignons et qui va aussi aller vers des vrais humains avec des vrais problèmes de société. Là encore, on peut très bien trouver un jeu profond, même s'il est avec une mascotte mignonne, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est bien de voir cette vision globale en fait, des choses qu'on ne trouvait pas forcément à l'époque, ou en très petit nombre. Et enfin, du coup, je voudrais terminer sur la partie VR. Donc on n'a pas pu en faire très longtemps, c'était les sessions de 2 à 3 minutes, vu qu'il y avait un petit peu de monde. C'était sur le PSVR.
Ça m'a l'air très sponsorisé par Sony, c'est... en fait, votre exposition.
Non, ben non, il y avait 3 jeux Sony. Enfin, il y avait. Non, il y avait quoi? Il y avait Tomb Raider.
Non, en vrai, il n'y a pas grand chose. Il y avait Tomb Raider, il y avait Uncharted et.
Ouais, Tomb Raider, Uncharted, et puis il y avait le PSVR.
C'est une question de budget, hein, parce que ouais, si t'achètes un HTC Vive pour l'expo, ça y est,
surtout qu'ils n'avaient pas rien à voir.
Mais le problème, c'est que c'était. Le PSVR, c'est vraiment nul.
C'est ça le problème.
Je suis désolé, mais la qualité, mais
les autres sont vraiment nuls aussi.
Non, attends, le HTC Vive est à des années-lumière de ce que propose le.
Oui, très bien, t'as vu le prix auquel il est.
Ah oui, non, mais au-delà du. Je veux dire, quand tu fais une expo, t'achètes pas le produit.
Non, t'achètes pas le produit, je veux dire, oui, le choix. Alors d'accord, du coup, le choix du PSVR pour une expo me paraît être un peu. Voilà. Mais finalement, c'est le seul qui soit réellement accessible.
Ah, mais totalement.
Peut-être pas terrible. Je sais pas à quel point il est pas terrible. Moi, le seul que j'ai essayé, c'est l'Oculus Rift il y a enfin, il y a pas mal de temps maintenant. Et ce que j'avais surtout remarqué, c'était que la descente, c'est-à-dire le fait de sortir du jeu, était juste horrible, quoi. Moi, ça m'a retourné la gueule. C'est pas le fait d'être dans le jeu, c'est le fait d'en sortir, c'est-à-dire de se réadapter à la réalité dans laquelle finalement t'as pas du tout la même physique, le même machin. Enfin.
Ah ouais.
Mais il y a plein de gens à qui ça fait ça. Hein. La descente est quelque chose de très compliqué.
Moi, ça me.
Alors, la version de Paris, peut-être pas bizarrement.
Non, mais j'ai comme sur Paris, on a pas mal de trucs. Enfin, on a pas mal de au niveau, tu sais, genre les Fnac, machin. On peut constamment aller tester de la VR en soi. Et donc, du coup, à chaque fois, on se précipite avec les potes et j'ai vraiment jamais eu de problème avec la VR. Et je voilà. Mais le PSVR, le vrai problème, c'est que c'est un casque en carton, quoi. L'écran est nul. Le plastique qui te sépare de la réalité, enfin la partie qui te sépare de la réalité, c'est du vieux caoutchouc. C'est en plus, t'as généralement si on te le met pas, si on prend pas 2 minutes à te le mettre sur la gueule, bah t'as du jour, quoi. Donc je trouve que c'est un mauvais masque.
Là par contre, pour la partie extérieure, moi j'ai pas eu forcément eu ce problème là. C'est plus en fait l'aspect graphique pur et technique en fait qui était assez pixelisé. Et c'est vrai que le problème, c'est que du coup, c'était Eagle Flight, c'était vachement intéressant. Je veux pas dire que c'était bien, en fait, c'était une bonne expérience, et ça m'a plu, j'étais vraiment dedans, et je le ressentais un peu. Mais le problème, c'est que cet aspect pixelisé me sortait, en fait, de l'expérience. Alors j'aurais pu être vraiment bien plus dans le jeu, et bien plus à la place de l'aigle. Au final, ce côté technique un peu aux fraises, bah ça me rappelait que c'était qu'un jeu et que j'ai beau avoir un casque sur la tête, au final ça change pas grand chose, quoi. Mais c'est vrai que je suis assez friand de ce genre de système, et au final je suis assez sensible en fait à ça, et je le ressens assez bien. Donc je suis un bon public de ce côté.
Donc du coup, est-ce que vous recommanderiez cette exposition pour conclure?
Elle est gratuite, donc oui à tout le monde.
Elle est gratuite et donc pas chère.
Foncez, genre c'est gratuit, c'est vraiment une... Genre vraiment, pourquoi se priver alors que c'est moins cher que gratuit. Donc foncez. Après, est-ce que elle est parfaite?
C'est où exactement?
Non. L'espace EDF. Alors c'est à Sèvres Babylone.
Fondation EDF, c'est ça?
Fondation EDF, ouais, pardon. C'est à Sèvres Babylone. Babylone?
Ok, où je vois ça. C'est dans le sud-ouest de Paris. Hein.
C'est ça, ouais, voilà. C'est dans le 7e arrondissement, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà.
Tout à fait.
C'est dans le 7e arrondissement.
On va enchaîner sur... Oui, voilà. Monsieur Galaxies va nous quitter, puisque...
Oui.
Il doit aller au lit, il y a école demain.
Totalement.
Ah, c'est 2000.
Voilà, oui. C'est un peu triste. Et nous allons demander à monsieur...
Mais je vais vous dire au revoir.
Voilà. Au revoir, Galaxies.
Au revoir, Galaxies.
Au revoir. Au revoir.
Et voilà, nous allons enchaîner avec Monsieur Antix qui avait une petite actualité, et ensuite nous enchaînerons avec la dernière actualité, et on va se dépêcher un petit peu parce que là finalement on a passé beaucoup de temps sur les...
La SNES, c'est bien.
Alors, moi ça va être un peu plus, ça va être assez rapide, donc récemment, l'année dernière, Nintendo a lancé sa stratégie mobile, et leur stratégie a été de dire, alors on a plein de super jeux, un super catalogue et tout, mais on va pas faire de portage sur mobile parce qu'on estime que ça correspond pas au support. Ça a donné une expérience et deux jeux plutôt sympathiques qui ont apparemment pas trop mal marché. Et donc, il se trouve que Nintendo a eu pendant un certain temps un rival qui s'appelle Sega. On l'a peut-être tous oublié, ce petit éditeur qui maintenant ne sort plus que des Sonic Perdic à foison. Mais du coup, eux, ils se sont dit, mais on a un catalogue de jeux 16 bits qui était quand même plutôt apprécié. Et on n'a pas encore
grand-chose. Pourquoi ?
Ouais. On a quelques trucs sur mobile, mais on manque encore un peu un gros truc. Et si on faisait l'exact opposé de Nintendo, qu'on sortait nos jeux sur nos jeux consoles sur mobile. Et donc ça donne Sega Forever, qui vous permettra de jouer avec une joie énorme à Sonic 1, 2, 3, enfin en tout cas Sonic 1 pour l'instant, avec un pavé tactile.
Trop bien.
Ouais. Vous trouviez Sonic 3 injouable, il le sera probablement encore plus.
Ah non, mais on appelle ça rajouter la cerise pourrie sur le gâteau à la merde.
Voilà, pour terminer un petit peu sur leur concept, donc c'est des jeux qui sont gratuits par contre. On peut payer pour retirer les pubs. Et pour l'instant,
donc,
ça ne concerne
donc
que.
Donc en plus, tu joues à Sonic avec un pavé tactile et avec une pub pour agrandir ton pénis en haut de l'écran.
C'est ça. Génial. Hein. Et leur ambition à Sega est plutôt louable, même si dans les faits, ce ne sera peut-être pas forcément une très bonne idée, c'est de proposer aussi leur catalogue Saturn et Dreamcast au format mobile. Alors, voilà, sachant que j'ai pas osé télécharger, mais apparemment les premiers retours que j'ai pu voir sur Twitter, donc c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude, c'est que c'est quand même pas terrible.
Bah, c'est-à-dire que la qualité... Alors, Sega a un énorme avantage là-dessus, c'est que l'émulation Mega Drive est quelque chose de très au point, parce qu'en fait, Sega utilisait systématiquement des composants extrêmement standards du marché, donc avait rarement des problèmes de compatibilité et autres. Donc c'est en réalité relativement facile de faire un émulateur Mega Drive, c'est beaucoup plus compliqué de faire un émulateur Super NES, dans la mesure où il y a plein de composants propriétaires de Nintendo, avec des versions de BIOS, de firmware et autres qui sont bien spécifiques. Sega, c'est que des composants standards du marché de l'époque, c'est des processeurs standards non modifiés, c'est voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'arriver à sortir un jeu. Par contre, le problème, c'est toujours le même, c'est le contrôle avec un écran tactile, quoi. En dehors de la qualité de l'émulation, ça pose quand même un énorme souci. Hein.
Pour certains jeux, pour des RPG, ce serait jouable, et encore, même Square Enix a fait l'effort de réadapter un petit peu ses menus pour un contrôle tactile, parce que si vous avez à peu près l'idée d'un menu Final Fantasy VI, c'est pas non plus très agréable à jouer en tactile, quoi, parce que c'est quand même des petits textes, donc ils ont mis des gros boutons à la place. Donc je ne pourrais pas dire que ce sera pas très agréable, mais comme la Mega Drive c'est quand même une console avec pas mal de jeux d'action, ça me paraît ouais un petit peu tendu de jouer à un truc genre Castlevania, je sais plus comment il s'appelle celui sur Mega Drive.
Bloodlines. Generations en Europe, Bloodlines aux États-Unis, je sais plus comment au Japon.
Ouais, c'est casse-couille. Celui-là est casse-couille. Ou le contrat Hard Corps de la Mega Drive avec un écran tactile, quoi.
Bah, c'est déjà compliqué d'y jouer avec une manette de Mega Drive.
Oui, voilà.
Parce qu'elle est quand même pas. Enfin, la croix est pas si mal que ça, mais c'est vrai que les boutons sont quand même placés bizarrement.
Et puis les jeux sont durs, hein.
Puis les jeux sont un peu hard aussi, oui, il faut quand même le dire. Hein. C'est pas. C'est l'époque où on savait faire des vrais jeux, pas comme maintenant, hein.
Voilà. Enfin, bref. Donc c'était la petite news Sega, et ça permettra d'enchaîner... Enfin, ils ont annoncé ça à peu près une semaine avant la Super Nintendo Mini. Transition.
Voilà, transition toute faite. Donc la Super Nintendo Mini, c'est l'actualité du moment. On pouvait difficilement ne pas vous en parler. Vous avez tous vu le magnifique tweet inspiré de Zergy de ce matin. Effectivement, Nintendo va tailler des croupières à tout le monde avec une bécane à 80 balles qui a des jeux qui ont plus de 25 ans. Dans la sélection de jeux, il y a quand même des choses très 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 intéressantes. On retiendra surtout, il y a Kirby Superstar, Super Metroid, Super Mario RPG, Final Fantasy 3/6, c'est Final Fantasy 6.
Mais la version américaine.
Alors malheureusement, enfin Secret of Mana, il y a quand même Donkey Kong Country, alors je suis très étonné moi de pas voir Donkey Kong Country 2, parce qu'il est quand même un peu meilleur que Donkey Kong Country, qui est un peu brut de fonderie. Super Mario World, Yoshi's Island... Super Castlevania 4, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Contra 3, ça fait partie aussi des jeux un peu mythiques. Il manque quand même 2-3 bricoles, il y a des choses, on sait pas trop pourquoi c'est là, genre Kirby's Dream Course.
Ouais, c'est ça, alors que par exemple il n'y a pas de Chrono Trigger.
Exactement.
Il y a un RPG emblématique de la console, plus que Super Mario RPG à mes yeux d'ailleurs. Même si c'est un bon jeu.
Il manque quand même 2-3 bricoles. Et il y a Earthbound. Alors, donc ça c'est bien, les gens se plaignaient de ne pas avoir assez de Earthbound. Maintenant du Earthbound, ils en ont.
Ils en auront toutes les sauces. On attend Mover 3.
On attend Mover, ouais. C'est quand même mal barré.
Finalement, on était des mauvaises langues. On l'a eu notre F-Zero.
Donc effectivement, il y a F-Zero. Moi, ce qui m'étonne surtout, il y a Super Mario Kart. Il y a 21 jeux au total, ce qui est assez étonnant. Par exemple, il y a 2-3 trucs un peu bizarres. C'est-à-dire, en Europe, on a Street Fighter 2 Turbo, donc la deuxième édition de Street Fighter 2, alors qu'au Japon, ils ont Super Street Fighter 2. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'au Japon, ils avaient Super Street Fighter 2, alors que nous, on avait Street Fighter 2 Turbo. Sachant que ben, le jeu un peu définitif Street Fighter, c'est quand même Super Street Fighter 2. Petite curiosité... pareil, on n'a pas vraiment de puzzle game, à part Kirby's Dream Course, mais qui est pas vraiment...
Quand même un peu chiant, quoi.
Enfin, qui est pas extraordinaire.
Au Japon, ils ont Panel de Pont, en plus.
C'est Panel de Pont qui est plutôt un très bon jeu.
Il y avait un Dr. Mario versus Tetris, en plus, il me semble, sur...
Tout à fait.
Sur la console.
Qui est sorti en mode budget, seulement aux États-Unis. La mauvaise nouvelle pour nous autres Européens, c'est que ce sera systématiquement les versions américaines des jeux, ça veut dire Secret of Mana en anglais... Bon, Final Fantasy 6 n'est jamais sorti en français, donc c'est pas une grosse perte. Mais Legend of Zelda Link to the Past en anglais.
Par contre, ça veut dire 60 Hz.
Ça, c'est inadmissible, par contre.
Ça, moi, je trouve que c'est quand même... Parce que sur la NES Mini, il n'y avait que Kirby qui avait une version française et qui apportait quand même pas grand-chose. C'est vraiment parce que Kirby, c'est pour les gamins, donc le jeu était en français. Donc que les mecs, sur 30 jeux, fassent l'impasse sur un parce que, voilà, beat. Mais là, ils se sont fait chier à faire le design et tout ça pour intégrer que des ROM américaines.
Ouais, je pense que c'était une question de vouloir mettre du 60 Hz partout, mais c'est vrai que c'est dommage de pas mettre les traductions, quoi.
Moi, si tu veux, j'ai une Super NES switchée, Secret of Mana, j'y joue en français et en 60 Hz.
Oui, non, donc, mais je pense que c'est adaptable. C'est quand même dommage, ouais, de pas avoir profité pour mettre quand même des traductions qui étaient plutôt sympathiques, quoi.
Ben, surtout qu'en plus, ils auraient pu en faire profiter d'autres gens. C'est-à-dire, je pense qu'aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui auraient été contents d'avoir la version espagnole de Secret of Mana qui existe, puisqu'elle est sortie en cartouche, elle a été traduite et tout ça. Je pense que ça aurait pu plaire à une partie hispanophone du public américain qui est pas négligeable. Pareil, il y a une version allemande. Enfin bon, ça aurait pu être sympa d'avoir le choix de la langue, par exemple, sur la ROM. Ça aurait vraiment pu être une bonne idée, surtout que c'est, à mon avis, pas pour ce que ça coûtait.
Puis niveau place, ça va, ça prend que dalle.
Je pense que globalement, ça ne prenait pas grand-chose. Après, il y a peut-être un effort d'ingénierie supplémentaire qui fait que... Bon. Mais je trouve ça un peu dommage.
Il y avait eu le même problème avec la console virtuelle Game Boy Advance où Golden Sun n'était disponible qu'en anglais.
Qu'en anglais et pas en français, ce qui est quand même, pareil, très dommage.
Ce qui est un peu chiant, parce qu'en plus, pour le coup, dans ce jeu-là, tous les noms changeaient en fonction de la langue.
Oui, voilà, parce que comme c'était à l'époque, tu sais que Illusion of Time, il s'appelle Will en version anglaise, et il s'appelle Paul en version française, et il s'appelle Heinrich, je crois, en version allemande.
D'ailleurs, c'est pas le jeu où le mec commence dans la banlieue de Pontoise.
Il y en a un. Non, c'est Secret of Evermore.
Oui, c'est Secret of Evermore. Moi, ça me fait toujours marrer de savoir qu'il y a un jeu qui fait ça.
Mais voilà, et alors la vraie belle surprise de cette Super NES Mini, quand même, c'est qu'il sera présent dessus Star Fox 2. Jeu qui n'est jamais sorti, qui a été fini à 100%.
Et qui a largement inspiré Star Fox Zero.
Qui a largement inspiré Star Fox Command, surtout.
Oui, sur aussi. DS.
Ouais. Du coup, un bon Star Fox.
Bah du coup, un Star Fox qui va être sympa. Bah, de toute façon, rien que le fait qu'il soit jamais sorti, c'est quand même une curiosité qui mérite l'attention.
D'ailleurs, j'ai lu sur Gamekult que pour pouvoir le débloquer sur la Super Nintendo Mini, il faut terminer le premier niveau du premier Star Fox. Qui est dedans aussi.
C'est quand même sympa aussi. Donc voilà, autant Star Fox 1, je trouvais pas forcément un jeu qui a très bien vieilli, ça se joue toujours, mais c'est quand même un petit peu, c'est surtout le framerate est vraiment très très lent, enfin c'est quand même les balbutiements de la 3D, donc c'est bien de rappeler que ça existait sur Super NES, parce que c'est vrai que ça va peut-être étonner les jeunes générations de voir qu'il y avait de la 3D il y a 25 ans sur console, alors que c'est pas si évident que ça, mais derrière t'as Star Fox 2 qui est quand même la belle surprise, donc ce sera la première édition officielle de Star Fox 2 qui, je rappelle, avait été annulée sur Super Nintendo, parce que Nintendo of America voulait pas que les consommateurs confondent la Super NES et la N64. Voilà, on s'adresse bien à des consommateurs américains.
Hein, ce qui nous permet de conclure d'ailleurs ce tour de l'actu en disant que, eh bien, en 2017, un jeu Super Nintendo sortira.
Oui, et officiellement licencié par Nintendo.
Et publié par Nintendo. Et
publié par Nintendo en plus, donc c'est quand même très balèze. On va se faire une première petite pause musicale parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est sur le tour de table de l'actu. Désolé, ça a pris beaucoup de temps, mais beaucoup de choses à parler. On va écouter un petit morceau qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on va dire dans cette émission. Il s'agit d'un artiste qui s'appelle Ozd, qui est danois, suédois, enfin scandinave, je ne me souviens plus exactement de sa nationalité, et qui fait ce qu'il décrit lui-même comme étant du 8-bit Game Boy guitar. C'est-à-dire qu'en fait, le monsieur a un synthétiseur NES et refait de la musique pour NES aujourd'hui. C'est de la musique qui est en Creative Commons, qui est totalement libre de droit. Donc elle restera dans le podcast. Ça vous fera plaisir.
C'est toujours sympa.
Donc l'artiste s'appelle Ozd, O2ZED. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, O2ZED.net. Ozd.net. C'est issu de l'album qui s'appelle Core Metallicum et le morceau s'appelle Superbia. Vous allez voir, c'est de la chiptune comme on l'adore. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. We'll be right back.
tour.
Voilà, donc vous avez dit tour. J'ai foiré le retour comme d'habitude. Hein, voilà, donc
tour.
Vous avez l'habitude maintenant. On fait beaucoup trop d'émissions en fait. Voilà, donc c'était OZZED, O-Z-Z-E-D. Vous pouvez le retrouver sur son site internet OZZED.net. OZZED.net. Il fait donc de la 8-bit Game Boy guitare. Si je dois vous conseiller un album dont on avait déjà passé un ou deux morceaux, c'est 8-Bit Empire, qui est vraiment un excellent album de chiptunes. C'est de la musique gratuite, libre de droit.
Sachant que c'est dispo sur Spotify, je vois.
Alors, c'est dispo à plein d'endroits, en fait.
Spotify, Deezer, et il y a même un Bandcamp.
Il y a un Bandcamp.
Et on peut télécharger.
Et on peut télécharger. Et donc, quasiment tout est en Creative Commons. Je crois que ces deux derniers albums ne le sont peut-être pas forcément. En tout cas, les trois premiers le sont. Ce monsieur fait des trucs vraiment très intéressants, c'est pas toujours très bien, mais c'est souvent très très bien quand même, donc ça vaut le coup, si vous aimez la chiptunes, en tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser. Nous passons à l'événement post-E3 de Nintendo, où Drosgar et moi-même avons eu l'insigne honneur d'être invités par Nintendo.
Merci monsieur Nintendo.
On a mangé des petits fours à l'œil.
Oui, surtout pour ça, merci monsieur Nintendo.
Parce que l'étudiant pauvre qui a mis tout son argent pour venir à Paris.
étudiant pauvre. Juste pour ça.
Bref, donc, je vous propose de faire un petit tour des jeux qu'on a pu essayer ou se faire présenter, parce que malheureusement, tout n'était pas disponible pour jouer, notamment Xenoblade Chronicles 2.
Il n'était pas jouable, je crois, apparemment.
Il n'était pas jouable, voilà, là, il n'était pas jouable, on a eu une démo, mais il n'était pas jouable.
Il faut comprendre que Metroid aussi n'était pas jouable.
Hein. Metroid n'était pas jouable, et Yoshi.
Oui, mais lui, c'est
Switch
normal.
Il n'était pas jouable, mais apparemment, il est vraiment dans les premiers stades de développement.
Oui, bah c'est comme Kirby, il est pour 2018. Hein.
Tout à fait. Donc, on a quand même eu droit à une petite présentation qui nous a permis d'en voir un petit peu plus, mais voilà. Donc, on va commencer par évacuer le meilleur jeu, hein, je pense, auquel on est joué.
Sonic Forces.
Drosgar, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir poussé à essayer Sonic Forces et...
Il faut combattre au début du démon, c'est pas grave, c'est normal.
Je te hais profondément.
Ce que je trouve bien, c'est que même quand je suis pas là, le mec qui est avec toi te force à aller jouer à Sonic.
j'ai pas compris encore que voilà. Alors Sonic Forces, en fait, ça ressemble beaucoup à Sonic Generations, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux Sonic modernes, des niveaux Sonic donc, qui sont en réalité vus de derrière, donc c'est le jeu où tu vois le cul Sonic. Donc t'as des niveaux comme ça, t'as des niveaux en side-scroller 2D, donc en niveau de plateforme avec Sonic classique, et en fait il y a un troisième type de niveau qui sont des niveaux beat'em all avec ce qu'ils appellent l'avatar, qui est en fait un... Alors, comment expliquer ? On dirait un croisement... Voilà. Vous êtes des connards.
Je crois que c'est bien résumé.
On dirait un croisement entre un design Skylander moisi et un jouet McDo des années 80.
C'est la tribu DeviantArt fan de Sonic.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Là, c'est vraiment déviant, en plus. Et en fait, tu refais les niveaux de Sonic moderne, mais avec une touche, j'arrive encore moins à contrôler le perso. Ce qui est balèze.
Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait un grappin et qu'ils ont réussi à foirer le grappin.
Alors, non seulement ils ont réussi à foirer le grappin, mais même le Sonic classique, en fait, ça se joue pas trop mal, je trouve. C'est plutôt bien dosé, bien foutu. En fait, le problème, c'est vraiment le Sonic moderne, c'est toujours de la merde, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Il y a vraiment des passages du jeu où je pouvais poser la manette, ça faisait pareil, quoi. C'est vraiment... c'est assez atroce. Ça
m'a rappelé... La partie bizémol est pas non plus
la
très
partie
folle, bizémol,
c'est de la merde. Et enfin, voilà, comme d'habitude, c'est de la merde. Je trouve vraiment pas grand chose d'autre à dire. Je pense que ça va encore bider. Parce que malheureusement.
Cette fois, c'est multiplateforme, hein. C'est pas comme Sonic Boom.
Ouais, mais bon.
Et puis c'est la Sonic Team, hein. C'est des vrais, hein. Ils savent faire des vrais Sonic. Hein.
Non, ils savent pas faire des vrais Sonic. D'ailleurs, je sais pas s'ils savent faire des vrais jeux.
D'ailleurs, est-ce qu'un vrai Sonic ça existe ?
Bah, je sais pas. Si on en a parlé avant, pour moi, Sonic 2 est un jeu correct. C'est-à-dire qu'effectivement, t'es amusant, tout ça. Peut-être un peu long dans certains cas. Mais je veux dire, rien que sur Sonic CD, par exemple, t'as des choix de design qui sont quand même très discutables.
De toute façon, Sonic c'est pas compliqué. Les meilleurs jeux Sonic, c'est ceux où Mario est dedans.
On s'est fait laminer l'an dernier,
n'est-ce pas, hein.
Voilà, donc maintenant qu'on a évacué Sonic Forces, donc moi personnellement je le recommande pas, j'ai pas essayé. On a Sonic Mania, je crois, était pas jouable.
Sonic Mania, non.
Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, Sonic Mania a peut-être un meilleur espoir d'arriver à faire quelque chose que Sonic Forces, je pense. Donc comme d'habitude, on est rentré dans le cercle de Sonic, hein. C'est-à-dire que tout le monde est hype parce qu'il y a un nouveau Sonic, tu découvres qu'il y a des shitty friends, finalement le jeu c'est de la merde, et voilà. Bref.
Je tiens à préciser qu'ensuite on a fait une sorte de petit duel avec Mortal, de petit concours de virilité, sur trois jeux. Oulala. Donc il a choisi le premier, ça s'est donc déroulé sur FIFA 18. comme je disais tout à l'heure, j'aime pas le foot, hein, et ça a été laborieux. Franchement, ça a été laborieux. Déjà à la base.
Tu as manqué de réalisme, Drosgar.
Bah alors, lorsqu'on voit le public. Alors j'ai regardé en fait une première fois pendant que Mortal s'infligeait Sonic Forces. Parce que je m'ennuyais tellement qu'il fallait bien que je fasse autre chose en même temps. Le public était un
moi
peu
aussi,
en carton pâte.
Je pouvais pas faire autre chose. C'est triste.
Après, le jeu n'est pas spécialement laid. En fait, je m'attendais quand même à pire, Mortal aussi, dans mes souvenirs.
Bah, en fait, je m'attendais à... Enfin, FIFA 18, au final, je...
Sur Switch, hein, faut le préciser quand même.
Sur Switch, voilà, la version Switch. Je sais pas, je dirais que c'est un petit peu au-dessus d'une version PS3. Et que c'est pas si dégueulasse que ça. Il y a des détails un peu bizarres maintenant. On avait interdiction de photographier ou de filmer. Peut-être parce que c'était un build un petit peu précoce du jeu, c'est pas sûr que ce soit le build final, mais je trouve que le jeu était pas dégueu. Voilà, c'était pas extraordinairement beau, mais c'était pas dégueu. Techniquement, le truc tient quand même la route. De toute façon, il tient ses 60 images secondes, ce qui est quand même le plus important pour un jeu de ce type-là. Les animations sont fluides, t'as vraiment toutes les possibilités tactiques, techniques et autres d'un vrai FIFA. J'en ai discuté un petit peu avec un collègue qui lui connaît très très bien la série FIFA, je lui ai expliqué les 2-3 sensations que j'avais eues avec le jeu et tout, il m'a dit ouais non mais c'est ça quoi, c'est un vrai FIFA, y a pas de souci. Donc voilà, et on a joué et c'était honnêtement pas désagréable du tout, je trouve, à jouer. En tout cas en contre 1, c'est assez marrant. On s'est pas mis une peignée monstrueuse à la partie à faire des 18.
Ah bah 0-0, 1-0, hein. Voilà, ça fait deux matchs au cas où.
Et au final, c'était plutôt fun, je trouve. Il y a quelques trucs que j'ai bien appréciés. Alors, le dernier FIFA auquel j'ai joué un peu sérieusement, c'était FIFA 98. Voilà, donc c'était il y a 20 ans. Et je trouve que il y a des belles améliorations. Il y a des trucs un peu surprenants aussi. Je trouve que les touches de balle, par exemple, enfin tout ce qui est frappe, passe et autres pour régler la puissance, c'est assez sensible. C'est-à-dire que c'est une question d'appuyer sur le bouton. J'ai appris plus tard qu'en fait, en fonction des joueurs, c'était moins sensible, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs avaient des jauges de frappe de balle moins sensibles. C'est-à-dire que là, on avait vraiment des joueurs, c'est t'appuyais à peine sur le bouton A, la balle partait dans le public, quoi. Alors que les très très bons joueurs du jeu, apparemment, tu peux maintenir le bouton un petit peu plus longtemps et tu peux donc être un peu plus précis sur tes frappes. Mais voilà, je trouve que c'était pas dégueulasse. Il y avait... Enfin, c'était pas mal, voilà. Pour un FIFA, un retour de FIFA sur console Nintendo... Ça peut avoir son petit potentiel, surtout en nomade ou en A2. Franchement, pas mal. Alors après, on n'y a pas joué avec les Joy-Con à l'horizontale.
Ah, c'était en mode manette pro.
C'était ouais, en mode manette pro. D'ailleurs, c'était avec des manettes pro.
Oui, j'imagine que le gameplay, le jeu avec les Joy-Con doit être un petit peu moins praticable.
Alors, je sais pas, parce qu'en réalité, les touches qu'on avait à disposition, en gros, il y avait ZL, R, mais en fait, L et ZR servent pas à grand-chose. Donc, je me dis que ça pourrait être remplacé par un clic sur le stick, par exemple, pour un des deux boutons, sans trop de problèmes.
Par contre, la chose qui manquerait, ce serait la croix directionnelle pour donner justement une structure plus, voilà, une tactique plus attaquante, plus défensive.
Alors, ça pourrait être remplacé par un tu maintiens le clic sur le stick et t'appuies sur un bouton, par exemple.
C'est vrai.
Ouais, ça c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein.
C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est toujours pareil quand tu joues avec un Joy-Con à l'horizontale, tu sais que t'es en mode entre guillemets dégradé. Donc je trouve pas ça gênant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec effectivement un Joy-Con. Un Joy-Con à l'horizontale pour voir un petit peu ce que ça va faire, mais voilà, c'était vraiment pas désagréable. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Drosgar, au final avec le recul, mais je trouve que c'était plutôt sympa. Voilà.
Bah après, c'est toujours le même problème. J'aime pas le foot à la base, donc ça me touche pas. Mais le jeu est assez bien en fait. Ça m'a presque convaincu de le prendre pour lorsqu'il y aura des potes qui viendront à la maison.
De toute façon, c'est clairement une bonne chose que le jeu sorte sur Switch. Hein.
Ah oui, je suis totalement d'accord.
De toute façon, c'est une très bonne chose. Et puis même, moi, je suis pas très foot, mais j'aimais bien les jeux de foot parce que je trouve que c'est intéressant. Les règles sont pas très compliquées. Tu peux faire des trucs un peu rigolos. Il y a un peu de pression. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de foot. Je voulais jouer à. Je sais que, comment dire, Cyrard avait dit qu'il aurait bien aimé jouer à. Il avait joué récemment, il y a 10 ans, à PES 2007 ou 2008 sur Wii, qu'il avait beaucoup aimé, parce qu'il y avait le côté finalement, c'était pas vraiment un jeu de foot, c'était beaucoup plus un jeu tactique-stratégie orienté. enfin voilà, qui était vraiment bien. Il a dit lui, ça le dérangerait pas non plus. C'est vrai que c'est pas désagréable à jouer. Méduse nous a rejoint.
Bonsoir Méduse.
Enfin, Méduse, Méduse pas n'importe comment.
Méduse XD LOL.
Salut les noobs.
Oula, il est dehors.
Il est
dans
dehors.
Train.
Train. Il est dehors. Il rentre du boulot.
Oh mon dieu.
Ça fait longtemps, ça fait longtemps.
Ça va être atroce. Bref, nous enchaînons avec un jeu que moi j'ai essayé. Alors attendez, juste avant.
Il n'y avait pas deux autres jeux dans le duel viril ou...
Si, justement, je vais quand même revenir un peu dessus.
Non, parce que on est pas
j'ai perdu le premier tour. Donc FIFA, bon, ok, je m'avoue vaincu. ensuite, on a continué sur un petit jeu indé sympa. Franchement, moins de 5€ sur l'eShop.
Flip Wars.
C'est ça, Flip Wars.
Ah, le jeu où vous faites des attaques rodéo pour changer les couleurs.
Exactement.
Appelez ça des attaques gros sympa. Cul, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on...
c'est vraiment le jeu qui avait l'air pourri.
C'est,
hein.
C'est l'attaque rodéo, c'est comme ça qu'il l'appelait dans Mario 64.
C'est l'attaque gros cul.
Enfin, après, je sais pas ce que t'en as pensé, Mortal. Moi, j'ai rejoint une seconde fois sur la fin, parce qu'au final, je suis resté jusqu'à 18h. Vu que Mortal m'a quitté un peu tôt.
Ah, on a perdu Drosgar.
Ah, on entend plus ?
Si, si, c'est bon.
Ah, parfait. Du coup, je disais, pardon, que j'avais eu le temps de rester jusqu'à 18h, donc j'ai le temps de refaire un petit tour et de rejouer à ce jeu, par exemple. C'était sympa, j'ai pu essayer d'autres modes, justement, un mode vie, donc où il fallait agir de manière bien plus stratégique avec le mode classique qu'on avait essayé tous les deux. Parce que, du coup, c'est ça, en fait. Il y a trois modes à la base. Un mode qui va être un peu à la Splatoon, où il faut avoir le plus de cases de couleurs, de notre couleur. Un mode où il faut éjecter le plus de monde possible. Et un mode où on a un certain nombre de vies. Et j'ai défoncé Mortal.
Oui, alors défoncer relativement. Hein.
Ah, ça essaie de diminuer sa défaite, ça.
Mon Joy-Con marchait pas.
La jeune fille qui était avec nous a aussi perdu, hein, y a pas de souci.
Ah, tu l'as défoncé aussi. Ouais.
J'ai pas donné mon numéro cette année. J'ai essayé quand même de faire ça.
Mais elle avait pas qu'elle était mignonne.
Alors si, il y en avait plein. Mais si tu veux, Drosgar, il l'a gardé dans son froc pour une fois.
J'ai pas eu le temps de choisir cette fois.
Moi, je me suis connecté juste pour savoir s'il avait pécho. Je suis déçu là, j'ai 2% de batterie là et t'as pas pécho quoi.
Voilà, bah c'est à peu près ça.
De toute façon, je l'emmène chez Galaxis et il m'avait dit dès le début, par contre c'est mort, tu remets pas de fille ce soir.
Il avait dit, sauf si je peux mater.
Ah, mais jamais. Ce à quoi t'aurais dû répondre, mais tu sais, je suis pas obligé de la ramener chez toi, hein, je peux aller chez elle.
Je pense qu'il y a un cache escalier, mais bon.
T'aurais été tellement beau gosse quoi. Ça aurait été beau gosse.
Oh mon Dieu.
Et donc nous avons fait un troisième tour sur Arms, qui était aussi présent sur le salon, parce que je pense qu'en fait comme il sort un peu en fin d'année, il n'y a pas grand monde qui était... Enfin, j'ai l'impression que Nintendo essaye vraiment de le pousser, et que ça... Je sais pas si ça marche trop bien
en
ou
fin
pas.
D'année Arms.
En fin d'année scolaire.
Oui, tu m'as fait peur.
Fin d'année scolaire. Non, mais il sort un peu avant les grandes vacances, il est un peu sorti dans une espèce de creux de vague, en plein milieu de l'E3, enfin tu vois, je trouve qu'il a pas vraiment été aidé par sa date de sortie. Et là, je dois avouer que Drosgar m'a mis une pâtée.
Je tiens quand même à préciser que je n'ai essayé qu'une seule fois Arms, c'était à l'événement de janvier, où on était invité pour essayer la Switch. Et je m'étais fait laminer par Olbus, d'ailleurs, Olbus que je salue. Et là, cette fois, j'ai défoncé Mortal encore une fois. Non, mais franchement, t'as été...
J'étais très mauvais. J'avais... En même temps, t'avais Twintel et...
Et Twintel, elle est pétée.
Elle est belle.
Twintel, elle est moi, je trouve que c'est un des personnages les plus difficiles à affronter, Twintel. En fait, il y a Master Mummy qui est vraiment très compliqué à affronter parce qu'il fait très, 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 très mal. Et je trouve que Twintel fait partie des personnages assez difficiles à affronter aussi. Bon, après, je me suis quand même pris une grosse branlée parce que j'étais pas concentré, c'était vraiment pas ça, quoi.
Mais bon, voilà, je tenais quand même à terminer sur ce petit duel et te féliciter.
Nous allons enchaîner. Donc, dans les petits trucs un petit peu pas top, il y avait Miitopia que t'as pu essayer. Je sais pas si t'as grand chose à dire.
C'est un crossover entre Tomodachi Life et Mi en Péril de la place Mi.
Sachant qu'il y a une démo sur la 3DS. Hein.
Ah, si vous avez 5 minutes à perdre, essayez-le. Ça m'a pas transcendé. La jeune fille qui m'a expliqué était hors du jeu assez intéressant en fait. Mais le problème c'est que sur une session de 2-3 minutes comme ça, j'ai pas vraiment eu le temps de voir le potentiel
en fait,
du jeu.
On a plus eu le temps d'admirer l'écran de la New 2DS XL.
C'est ça.
Qui est. Alors moi j'étais un peu soufflé, c'est-à-dire j'ai sorti ma 3DS XL, j'ai regardé ma New 3DS XL, j'ai regardé à côté. Franchement l'écran est assez bluffant et la console est super légère, même si on avait tout l'attirail anti-vol habituel du truc. Même là, c'était plus léger qu'une New 3DS XL. Franchement, je me demande si c'est pas ça la 3DS Ultime en fait, parce que l'écran est de super qualité.
Super qualité.
Alors oui, voilà, Méduse voulait en placer une.
Ouais, non, je disais la 3DS Ultime, c'est la Switch.
T'es un gros troll. Bon voilà, donc c'était relativement sympa. Je vais expédier aussi assez rapidement Fire Emblem Warriors parce que malheureusement j'ai pas pu faire la démo complète qui durait un petit peu plus d'un quart d'heure.
De toute façon, on sait très bien comment ça fonctionne. Hein. X, Y, et on recommence.
Alors figure-toi.
Jusqu'à ce que tout le monde soit mort.
Figure-toi que pas tout à fait.
Tu veux dire que t'as appuyé sur A ?
Oui, des fois j'ai appuyé sur A. J'ai aussi appuyé sur R une fois.
Mon dieu.
Ce qui était quand même foufou.
C'était pourquoi ? C'était pour faire une esquive ?
Non, c'est esquive.
Ah oui, non, les esquives, c'est puissant pour moi.
C'est voilà, super. C'est non, alors, il y a quand même un. Alors, j'ai pu quand même discuter avec le démonstrateur parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup, mais il m'a quand même expliqué pas mal de choses. Il y a quand même un côté stratégique un tout petit peu plus développé que sur Hyrule Warriors, notamment par le fait que le zapping entre les personnages est beaucoup plus rapide.
Ouais, j'ai vu, c'est quasiment instantané en fait.
C'est quasiment instant.
Ça, c'est bien.
Donc, ça, c'est très bien. Et tu peux aller, entre guillemets, recruter un perso. Ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire que finalement, le système de support de Fire Emblem, ils l'ont repris. C'est-à-dire que tu peux aller voir un perso, lui dire « Tu viens avec moi !» Et à ce moment-là, vous êtes à deux, et il va bloquer à ta place, il va attaquer en même temps que toi, et ainsi de suite. Il y a apparemment pas mal d'options tactiques, alors il y en avait quelques-unes qui étaient disponibles, mais tu peux aller demander à un mec de garder un fort au complet, c'est-à-dire que l'IA des personnages secondaires ou que tu contrôles pas, qui était juste débilissime dans Hyrule Warriors...
Elle servait à rien dans Hyrule Warriors, tu voilà. Gagné 2 minutes, quoi, c'est tout.
Là, non, c'est un peu plus costaud, c'est-à-dire que tu peux vraiment donner un ordre, genre, ce fort doit tenir, et le truc se défonce le cul pour que ça tienne. Donc voilà, il y a quelques options tactiques, tu peux assigner des ordres à des mecs et tout ça. Ça a l'air d'être quand même un tout petit peu plus finaud qu'un Hyrule Warriors, qui était sympathique, mais sans plus. Enfin, ça restait un mousseau un petit peu bourrin bêta, sans trop réfléchir.
Ok, bah du coup, ça me donne déjà plus envie d'y jouer.
Mais voilà, ils ont essayé de pas faire que du fanservice, mais de reprendre un petit peu aussi le côté tactique stratégique d'un Fire Emblem. Je te dis, il y a le côté personnage de support, ça existe.
Le triangle des armes qui est toujours là.
Le triangle des armes existe. Ça doit être moins...
Pour l'instant, il n'y a que des mecs avec des épées qui sont jouables, donc je ne sais pas trop comment ils vont le gérer.
Dans la démo aussi d'ailleurs.
À un moment qu'ils te filent des armes secondaires comme dans Hyrule Warriors, là
mais
c'est possible.
Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Et il y a quand même quelques petites options stratégiques et quelques options tactiques que tu peux déterminer avant. Tu peux aller donner un chemin à prendre à un mec, lui dire voilà, tu vas de tel point à tel point et tu ratisses tout, ou au contraire, tu vas de tel point à tel point en essayant de te faufiler. Enfin, voilà. Je pense que ça va peut-être être un tout petit peu plus intéressant que ce qu'on imaginait au départ, qui était Hyrule Warriors avec un skin Fire Emblem.
C'est moi ce qui me faisait un peu peur quand j'ai vu. Bah, en même temps, ça me choque pas vraiment, quoi.
Voilà, on enchaîne sur Mario et Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions.
Est-ce qu'il y a vraiment des choses à rajouter de plus sur le jeu principal ?
Rien de plus.
Il y a juste la partie Bowser's Minions qui est très marrante. Parce
vous l'avez
que
testé ou... Parce que ça avait l'air un peu chiant dans le tryhouse.
C'est pas extraordinairement top, c'est juste rigolo parce que ça te permet de voir ce qui se passe un peu sur l'envers du décor, puisque tu incarnes l'histoire un peu parallèle de ce qui se passe chez Bowser.
Ouais.
Bon, je pense que Superstar Saga est un bon jeu, je pense que celui-là sera un bon jeu aussi, mais voilà, il y a pas grand-chose de plus à en dire.
Si vous l'avez jamais fait, vous le prenez, sinon... Non,
clairement, je pense que c'est une bonne pioche sur 3DS. Hein.
Bah, c'est-à-dire que c'est le jeu qui coûte pas grand-chose à faire, qui est toujours de bonne qualité, qui va quand même faire un...
un peu long là.
Le jeu qui fait saigner du nez Drosgar, Pokken Tournament DX.
J'ai pu l'essayer du coup lorsque tu étais parti.
Est-ce que c'est toujours injouable ?
Oui, et j'ai encore perdu contre le mec. Il se faisait un plaisir de m'éclater devant son collègue en plus, mais il m'humilie publiquement. Et du coup, j'ai appelé la sécurité et on l'a foutu dehors.
Il est content.
Mais non, c'est toujours le même jeu en fait. J'avais joué un peu chez toi vite fait. C'est pas très intéressant pour ceux qui aiment juste Pokémon, s'ils n'aiment pas du tout les jeux de combat. Et après,
c'est ça le problème en fait. C'est que je pense que les fans de Tekken ne vont pas forcément s'y retrouver. Les fans de Pokémon s'y retrouvent pas forcément. Ça reste un jeu de combat.
C'est même pas un Tekken, parce que de ce que j'ai vu, t'as une espèce de phase à distance.
C'est ça, il y a deux phases.
Tu peux t'approcher pour des phases
3D,
de corps à corps.
T'as les phases 3D, les phases 2D. En fait, le problème de Pokémon, je trouve, c'est que c'est quand même très bordélique. C'est pas forcément désagréable à jouer comme une espèce de jeu de combat ultra casu, mais derrière c'est quand même ultra bordélique.
Moi je trouve que justement, moi, mon souci quand j'avais testé la démo avec ce jeu, pour en faire une parenthèse vite fait, c'est que pour un jeu Pokémon qui se veut plus à un public jeune, Et en plus, qui est censé être un jeu d'arcade à la base, tu débarques dans le jeu et déjà t'as deux phases différentes, donc c'est vraiment bizarre.
En tant que jeu d'arcade un peu moderne, ça marche plutôt pas mal, dans le sens où c'est vrai que c'est des parties rapides, sans prise de tête, tout ça, tout ça. Maintenant, si tu veux commencer à maîtriser un peu les subtilités du jeu, enfin, je comprends ce que tu dis sur le... Je trouve que la première marche est un peu haute pour un jeu d'arcade, mais ça reste raisonnable. Par contre, dès que tu veux essayer de maîtriser les subtilités, genre je veux passer en mode 2D, je veux faire une chope, je veux machin, ça devient très très galère.
Ouais, parce que moi, c'est... Je suis pas forcément un gros fan de Tekken, mais s'il y a un truc que je considère cette série qui est vraiment réussi, c'est que la prise en main et le système de jeu font que tu peux enchaîner quelques petits combos rapidement, alors, sans vraiment savoir jouer. Enfin, j'ai joué à Tekken pour la première fois, j'ai compris, bon bah, deux touches pour les points, deux touches pour les jambes, et hop, j'essaie de voir ce que ça fait quand je les combine, quoi. Et c'était plutôt rigolo. C'est un truc qui est aussi dans Soul Calibur, et je m'attendais à retrouver dans Pokken, parce que c'est plus ou moins les mêmes développeurs. Et y a pas, je trouve ça vraiment bizarre parce que Pokémon, justement, ça devrait être même plus simple que ces deux jeux-là, quoi.
Je suis bien d'accord. C'est gros problème, en fait. C'est un décalage avec l'univers du jeu qui est inspiré, justement.
Oui, c'est pas... Puis après, tu peux pas vraiment jouer roleplay non plus. ça, c'est pour toi, Rosier.
C'est mon souci.
Est-ce que tu as pu essayer et Pikmin? Parce que moi, malheureusement, je suis passé un peu à côté.
J'ai pu, et... Ah. Alors, je savais pas combien de temps, en fait, justement, j'avais pas regardé les vidéos pour pas avoir d'a priori dessus. Parce que j'en ai entendu un peu de mal, donc j'ai décidé de tout me couper. À part justement la petite vidéo à l'E3, mais c'était assez court. J'ai bizarrement assez bien aimé. J'ai bien aimé comme un petit jeu de 3DS, en fait. C'est ça le problème. C'est pas un triple A, c'est pas un jeu marquant, c'est sûr. Mais c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais, si vous voulez, à une sorte de Chibi Robot dans le style. C'est ça en un peu mieux, en fait. Et la gestion des Pikmin est relativement bien faite pour un jeu 2D. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'archaïque, en fait. Et on peut toujours bien les envoyer, on peut toujours les contrôler un petit peu. Ils ont encore des objets à ramasser pour construire des ponts, pour aller réparer des choses, pour ramener des objets avec nous. Mais ça reste, en fait, très très simplifié. C'est pas un grand jeu, c'est plutôt si vous avez un gros creux et que vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous le prendre. Mais je vais pas le conseiller à quelqu'un qui hésite entre ça et un autre jeu moyen.
Sort la semaine d'avant.
Voilà.
Splatoon 2.
Splatoon 2. Après, il faut avoir la Switch, c'est ça le souci.
Voilà, mais Splatoon 2, ça a été la grosse explosion. Hein.
Juste pour finir sur Pikmin, je vois bien un 13 sur JVC, en gros.
Super. Bon, voilà, c'est une belle référence.
Ça a l'air d'être un peu du niveau du Chibi Robot qui est sorti. Hein.
Ziplash, oui, c'est sympathique, mais qui tient peut-être pas forcément sur la durée.
Surtout, c'est très différent de ce que fait Pikmin en temps normal, et je trouve ça dommage de cantonner Pikmin, de transformer Pikmin en espèce de jeu de plateforme un peu basique, alors que ça reste quand même un bon jeu de stratégie.
C'est un excellent jeu de stratégie, et c'est un petit peu dommage. Alors après, faut voir, le truc, c'est que ce qui pêchait un petit peu sur Chibi Robo Ziplash, c'est que les niveaux se renouvelaient pas assez.
J'ai peur que ce soit le cas aussi pour celui-là.
Bah là, ça va être compliqué à juger, mais franchement, si les niveaux se renouvellent un peu, je pense que ça peut le faire. Alors après, ça va pas être le jeu du siècle, quoi, ça c'est clair. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Mais bon, enfin, bah après, en attendant un vrai Pikmin 4, on prend ce qui vient. Splatoon 2, on a pu y jouer tous les deux dans la même équipe.
J'ai rejoué par la suite au mode Salmon Rush.
Donc tu joues au nouveau mode qu'on n'avait pas pu. Nous, on avait une partie qui était en local, donc on était à 8 joueurs en local plus un joueur spectateur.
J'ai joué d'ailleurs avec Corentin Lamy de ZQSD.
Oh, cool!
Le mec, il se la pète, quoi, il connaît du monde.
Bah écoute, maintenant, ouais, il commence à être connu dans ce gars, hein, si tu veux. Il arrive, il dit bonjour,
il me demande à chaque fois.
Et t'as toutes les minettes qui tombent à ses pieds.
Tout le monde demande, tu viens pour quel média? Nintendo Jo. Ah, bah, connais pas. D'accord, tant pis.
C'est bien, on passe pas du tout pour des cons.
C'est sûr.
C'est bien, un jour, on dira... ouais, on vient pour Drosgar Bar. Tellement il est connu.
Bref. Donc, Splatoon 2, ben, c'était de la balle. J'ai pas de problème. Je pense pas que la démo fût très différente de ce qu'on avait eu sur le Global Test Fire 2.
Et le Salmon Run, du coup...
Et du coup, je laisse Drosgar parler du Salmon Run, parce que moi, pour le reste... Alors si, j'ai quand même une toute petite remarque à faire, c'est que par rapport à Splatoon 1, il y a quand même des choses qui sont très bien faites. C'est très 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 facile de changer d'équipement et d'armes entre deux parties.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle.
Parce que c'était quand même il était temps, c'est vrai que sur Splatoon 1, c'était quand même un des défauts d'ergonomie un peu pénible. Là, entre deux parties, c'est très 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 facile d'aller dans le menu, tu t'avances, t'appuies sur plus, pouf, tu vas aller changer tes armes, tes machins, tes trucs, et c'est reparti pour un tour. Ça marche d'ailleurs très très bien, et c'est très agréable à jouer. Le seul truc que je reproche encore au jeu, c'est ce putain de bouton X pour afficher cette putain de carte, et je trouve ça absolument insupportable. Je sais pas, mais j'espère qu'il y aura une option pour changer.
J'y ai repensé, et je me dis quand même que finalement, c'est peut-être pas si différent que l'écran tactile de la Wii U, dans le sens où ben, quand on devait regarder sur Wii U, il fallait baisser les yeux, et du coup on perdait un petit peu l'écran des yeux.
Hein. Oui, mais là, le fait d'afficher la carte, en fait, la carte n'est pas transparente. Moi, c'est ça que je lui reproche. C'est-à-dire que si la carte était transparente ou semi-transparente, on y arriverait. Une autre option rigolote que j'avais pas vue, alors c'est soit je l'ai pas vue dans le Global Test Fire 2, soit on a un build un petit peu plus tardif du jeu. Il y a deux petites choses rigolotes. La première, c'est que tu as maintenant un curseur qui t'indique la position de ta visée précise, c'est-à-dire donc la visée gyroscope. Donc tu as un petit curseur qui s'affiche en permanence à l'écran pour te dire où vise ton gyroscope. Ce qui est quand même intéressant, je trouve. Donc tu as un curseur supplémentaire, en fait, en plus de ta vue, tu as un petit curseur qui te dit voilà. Vous bougez comme ça, et vous avez donc cette petite subtilité-là. Et la deuxième chose que je n'avais pas vue, moi, lors du Global Test Fire 2, mais qui apparemment était déjà présente, le double gun, donc le, je ne sais plus comment il s'appelle, le double splat gun, quelque chose comme ça, qui permet de tirer deux tirs à la fois avec deux petites cibles, permet aussi, quand on est en train de tirer, en fait, si on appuie sur le bouton de calmar, en fait, on fait une esquive. On fait un roulé-boulé sur le côté. Et ça, je l'avais pas du tout vu, et en fait, ça apporte un avantage absolument monstrueux à cette arme, parce que t'es en train de bombarder un mec, paf, tu fais un roll, et tout d'un coup, le gars, il est perdu, et tu peux continuer à lui bourrer le cul, quoi.
Bah, c'est ce qui avait été montré lorsqu'ils ont présenté l'arme.
Voilà, mais moi, j'avais pas du tout grillé. Donc, du coup, c'est bien. Donc, monsieur Drosgar pour Salmon Run. Voilà,
alors, simplement, priorité au direct, il y a les précommandes pour la Super NES Classic Mini qui sont ouvertes chez Micromania.
Ouais, alors je crois qu'ils ont buté le site au passage.
Oui, parce que là, ça, depuis tout à l'heure, ça merde, là, vous parlez et tout, ça m'intéresse pas, mais bon, c'est pas grave.
Tu peux la préco à la Fnac aussi.
Ah, je vais aller voir ça. Non, voilà, c'est juste...
Alors non, à la Fnac, on peut plus la préco depuis 5 minutes après qu'elle ait été mise en ligne.
Ah oui, logique. J'en ai pris une sur Amazon DE, mais à 100€, donc c'est juste en attendant, mais ça me fait mal quand même.
Bref, donc monsieur Rosgar, le mode Salmon Run.
C'était... assez intéressant. En fait, je savais pas vraiment comment attendre. J'avais vu justement que c'était un jeu en équipe contre des mobs. Je pensais que ça allait être un petit mob, en fait, un petit mode ajouté comme ça. Et c'était quand même assez prenant. Alors, le souci, entre guillemets, c'est que une des personnes du staff Nintendo qui était avec nous, donc on était 4 en tout, était une joueuse pro de Splatoon. Forcément, on a gagné largement.
Ah, excuse-moi.
Bah, pas cette fois, je
c'est elle qui l'a pris dans un coin sombre avec son de la peinture.
C'était la fin en plus de l'occasion.
Laisse-moi voir ton gros calamar.
Je lui ai mis plein de peinture partout.
C'est bien, ça y est, on est.
Voilà, c'est vrai, on est au top. On va passer en Peggy 18 le podcast, c'est sûr et certain.
Mais j'ai déjà en Peggy 18.
Je suis con.
Peggy 12.
Est-ce que vous qui nous écoutez, vous pouvez regarder en bas à droite de votre écran? Voilà, il est bien 18, on est d'accord.
C'est en bas à droite sur la vidéo.
C'est très radiophonique tout ça. Au final, le mode était assez intéressant et un peu plus stratégique que ce vers quoi je pouvais m'attendre, justement. Comme d'habitude, en fait, dans ce genre de jeu, comme un Left 4 Dead, comme ce genre de jeu, il va y avoir des changements au niveau de la map et on peut se ressusciter nos potes lorsqu'on meurt. Donc je suis seul à être mort 3 fois, je crois, pendant la partie. Tous les autres sont jamais morts. Apparemment, j'étais le plus mauvais de la partie, hein, mais ça m'étonne pas spécialement.
Noob.
Oui, j'assume. Mais en même temps, j'avais pris... je me souviens plus par contre si on avait pu choisir l'arme sur le coup, mais c'était assez intéressant en vrai, avec les boss qui arrivent par vague. Voilà, en gros vraiment c'est un Left 4 Dead chez Splatoon. Pour ceux qui aiment ça, ça va leur plaire. Je sais que j'ai des copains qui n'aiment pas du tout Left 4 Dead ou ce genre de jeu avec des vagues d'ennemis.
Ça reste c'est le mode map de Left 4 Dead, c'est-à-dire ça reste du scoring.
C'est ça. Du scoring avec quand même un objectif à chaque fois. Il fallait récupérer, enfin à chaque vague il faut récupérer des sortes de petites orbes dorées. Il y en avait par exemple 3 à la première vague et puis ça augmente. Et à chaque fois, il faut les récupérer sur les gros monstres ou sur le boss, puis les amener jusqu'au panier central. Donc, faut pas se faire attraper sur le chemin. Quand on transporte l'orbe, on se déplace moins vite et on tire moins vite. Il y a quand même ce côté-là où il faut protéger nos coéquipiers. Donc, soit tout le monde prend les orbes et on va plus vite, mais on est à découvert. Soit il y en a qu'un seul qui va prendre l'orbe à la fois, et du coup, les autres coéquipiers vont s'occuper de protéger. Mais le problème, c'est que là, on était pas très coordonnés. En fait, on se donnait aucune indication, on se donnait rien à l'oral. Donc, au final, on faisait chacun tout dans son coin. Mais dans une vraie partie où tout le monde se parlerait, avec le merveilleux système de casque de Nintendo avec le téléphone.
Le troll.
Oh, putain. Non, mais en vrai, c'est pas possible.
En vrai, c'est pas possible.
Si justement il y avait une vraie cohésion dans l'équipe, là le mode serait vraiment intéressant. J'ai pas pu ne serait-ce qu'effleurer.
Je pense que c'est typiquement le genre de truc qui en LAN va être
totalement
Switch à Switch va être vraiment intéressant. Et à mon avis c'est là où tu vas, parce que faut être honnête, hein, les modes de Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, le mode carte en fait, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le mode versus, c'est le mode rush, enfin je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais.
C'est vraiment intéressant que quand t'es en LAN. Parce que là, tu peux te coordonner un minimum.
Avec un leader, avec.
C'est comme le mode, les modes Horde des Gears of War et compagnie. C'est, hein, ça, c'est, ouais. C'est fois minimum de coordination, quoi.
Bah, sinon, tu t'en sors pas. Donc, à l'instinct, tu peux, quand t'es très très bon, tu peux arriver à faire des trucs, mais à un moment, t'as quand même besoin qu'il y ait quelqu'un qui finisse par gueuler. Et les gars, faut me protéger, quoi. Mais je pense qu'en mode local, à DS in Paris, qui va devenir Switch in Paris très rapidement. Ça peut quand même le faire. C'est à mon avis là où tu vas pouvoir arriver à trouver des gens qui ont du niveau et où tu vas pouvoir t'amuser sur ce genre de mode là.
Ouais, et puis c'est toujours plus sympa de jouer avec les gens quand ils sont à côté de toi, quoi.
Ah oui, non, mais clairement, en plus, surtout sur ce genre de mode là.
Je pense que c'est ce mode de genre de jeu qui va, sans aller peut-être reproduire le phénomène qui a été Monster Hunter au Japon, en tout cas chez les Japonais, relancer un peu la mode. On se retrouve dans un café et on sort nos consoles et on se fait une partie en buvant des consos, quoi.
Ouais. Oui, clairement, ça va. Je pense que ça va le faire. Même, je te dis, à mon avis, DS in Paris, ça va quand même y aller assez vite, hein, ce genre de truc.
Ouais, bah, je pense qu'à mon avis, j'ai fait un tour de C4 là-bas, hein, quand je vais sortir.
Il va falloir qu'on se coordonne pour aller un de C4 à la DS in Paris, parce que c'est,
yep,
c'est toujours très,
ouais,
sympa.
Moi aussi, DS in Clermont, c'est vachement bien.
Ouais. Mais il y a DS in Nantes, si tu habitais dans une vraie ville.
3DS in Nantes.
3DS in Nantes, pardon. Je vais laisser la parole à monsieur Drozer. J'ai gardé les trois gros morceaux pour la fin. On va parler un tout petit peu de Mario et les lapins crétins. Alors c'est Drosgar qui a joué, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, j'étais vraiment juste sur le départ parce que j'avais les enfants à aller chercher à l'école, donc il fallait quand même que je me dépêche. Donc c'est Drosgar qui a joué, néanmoins je l'ai observé attentivement, et ça m'a l'air d'être, je sais pas comment dire, mais beaucoup plus miam miam que ça en avait l'air au départ. Et plus je vois le jeu, plus je me dis que ça peut quand même être sacrément sympa, mais je vais laisser Drosgar qui avait la manette en main en parler.
Donc je suis passé juste après Kokobé de Pastel Stick. Oui, encore une tête connue, hein, bien sûr,
ah oui,
à côté de
nous. Suce tout le monde.
Ce mec, il est dans le podcast game, un level.
tu vois, il fait le podcast du Dojo Bar, quoi. Attention, hein, je rappelle, le Dojo Bar, c'est quand même the podcast de la mort. Hein.
Ah oui, mais on sait jamais, hein, ça peut toujours leur plaire, avec notre niveau très élevé. Et donc, une fois qu'il a lâché la manette, j'ai pu toucher à... j'ai pu toucher à ce jeu qui semblait être une aberration au moment des rumeurs et de son annonce.
De son leak,
le fameux leak Ubisoft habituel, hein, comme Assassin's Creed cette année, comme fait tous les jeux Ubisoft, il n'y a toujours pas de changement là-dessus. J'espère qu'un jour d'ailleurs, ils auront des employés qui seront un peu plus stables et un peu plus fiers de leur entreprise, qui n'oseront pas filer les informations pour juste deux bières et une poutine.
Surtout s'ils vont à Gameblog, ils vont pas gagner grand chose.
Ah putain, ça c'est sûr. Merci Julien Chiez. Ce jeu était intéressant. Alors, déjà, je suis un grand fan de jeux de stratégie, de jeux de gestion, de tous les jeux, il faut réfléchir, j'aime bien, parce que dans la vraie vie, j'arrive pas, je me dis quand je joue vidéo, c'est tout de mieux.
Ah putain, moi j'ai horreur de ça, le jeu où il faut réfléchir.
Ah putain, genre là par exemple, si vous voulez, je suis en vacances depuis 3 jours, j'en suis déjà à 19h sur Civilization 5. Non. Ah non, 24h maintenant. Ouais, merde, en 3 jours.
Ça va être tendu.
Non, 4 jours. Oui, non, mais comme toujours. Et donc là, c'est pour ça que XCOM 2, par exemple, j'avais bien joué. Faudrait que je m'y remette parce que j'avais fait une petite pause et j'avais quand même pas mal retourné. J'aime bien ce genre de jeu. Mais c'est vrai que le gros problème à chaque fois, c'est la difficulté qui peut être un peu déroutante. Surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc
ça,
surtout pour des joueurs Nintendo.
On voit le noob qui sait pas jouer à Fire Emblem. Hein.
Ah, mec, faut surtout pas que tu te mettes à Fire Emblem parce que tu vas bouffer toute la série pendant les vacances. Hein.
Mais oui, mais justement, j'ai joué un peu, mais en fait, ça me fait chier de jouer sur émulation et après, il faudrait rechercher les cartouches. Donc pour l'instant, j'ai fait les deux GBA et les deux premiers de 3DS. C'est déjà pas mal. Au final, Donc j'entendais des gens dire autour de moi que oui, tout le monde a parlé de XCOM, d'ailleurs c'est toi qui en as parlé, peut-être Mortal, mais bon, je m'en souviens pas bien.
Oui, ça je dis, c'est un XCOM-like, mais c'est peut-être un peu plus subtil que ça, parce que toi qui connais un petit peu la série XCOM, t'as peut-être un avis un petit peu différent sur le sujet.
Non, justement, je croyais que ça ressemblait un peu, mais j'ai entendu des gens qui disaient aussi qu'au final, pourquoi est-ce qu'on disait XCOM-like, alors qu'il y a Fire Emblem, et alors qu'il y a le fameux jeu Codename Steam. Bon, bien entendu, c'était du troll, parce que personne ne se souvient de ce jeu, je pense que personne n'y a joué, il y a eu 3 ventes dans le monde à peu près, ça devait être développé par sa mère.
Moi je l'ai fini,
Et bah t'étais à la 3ème vente, désolé.
Je vais faire Codename Steam in Paris, on sera peut-être un petit peu plus nombreux que les possesseurs de PS Vita.
Oh ce troll, putain. Et au final, cette version justement de XCOM cross Lapin Crétin cross Mario était vachement sympa. On alterne entre des phases d'exploration où on contrôle une sorte de petit robot avec des oreilles qui va être
un aspirateur automatique.
Automatique, ouais, franchement c'est ça, c'est un aspirateur automatique avec des yeux, des oreilles, qui permet justement de se déplacer. Donc nos héros vont suivre cet aspirateur, avec Mario en tête dans la démo. On alterne justement avec des moments où on va juste avancer, simplement en regardant le paysage, en suivant un peu les dialogues, en passant pendant un moment où il y a des labyrinthes avec des pièces pour essayer de trouver un peu les indices cachés, pour trouver les armes cachées, ce genre de choses. Et les phases de combat. Phases de combat, somme toute, assez classiques, avec des endroits pour se couvrir, mais surtout un système assez sympa, en fait, qui permet, une fois qu'un allié est avancé par rapport à un autre, le second allié, justement, peut se diriger vers lui, pour être éjecté, en fait, si vous voulez, le premier se mettre sur le dos et le pousser avec ses pieds pour être éjecté plus loin, en fait, et pour prendre plus de distance.
C'est la catapied, en fait.
C'est une catapulte
avec ses pieds. Et c'est vraiment ça. Et c'est très rigolo comme mécanique parce qu'effectivement, ça permet à le personnage le plus avancé dans le jeu, finalement, peut aller projeter un autre gars encore plus avancé que lui. Et ça va être une mécanique originale. J'ai hâte de voir les ennemis l'utiliser, surtout parce qu'il me semble que dans la démo, ils s'en servaient.
Il s'en servait pas du tout dans la démo dans le souvenir.
Il me semble s'en servir dans une cutscene ou un truc comme ça.
Ouais, c'est dans mes souvenirs, ils s'en sont servis en 40, ça s'appelait la Blitzkrieg. Mais justement, c'était assez sympa parce que ça me permettait de prendre assez d'avance sur le terrain pour essayer d'éviter de se faire déborder. Et à chaque fois, justement, les petits éléments du terrain sont destructibles. Donc au bout de 2 ou 3 tirs sur un bloc, par exemple, il va être détruit, donc il n'y aura plus de protection. La protection peut être bien sûr de 100% ou de 50% sur un hauteur. C'était assez complet en fait, surtout pour un premier niveau. Parce que je me doute que malgré ce que nous a dit la personne, comme quoi c'était une démo spécifique, je pense que les niveaux en fait vont correspondre vraiment au premier niveau du jeu. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner en vrai. On peut, comme d'habitude dans ce genre de jeu, changer les armes avec plus ou moins de puissance, d'efficacité, d'effet. Chaque personnage a son petit pouvoir spécial. Par exemple, le lapin crétin Peach va pouvoir soigner. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça accumulé, ça fait quand même une certaine dose de stratégie qui est pas vraiment habituelle chez les joueurs de Nintendo. Parce qu'au final, on a beau avoir des RPG comme Paper Mario, ce genre de choses, ça pousse pas non plus la réflexion très loin, c'est plus des réflexes.
C'est vrai que Fire Emblem et Advance Wars, hein, ça compte pas.
Ouais, mais à part justement la remontée de Fire Emblem depuis quelques années, Advance Wars, t'en avais pas eu de quand? Bah depuis la Game Boy Advance, justement.
Enfin, depuis la DS.
C'était très populaire depuis sur Game DS, Boy pardon. Advance comme série, hein.
Ça fait partie des jeux qui sont... Ça fait partie des meilleures ventes de tous les temps de la Game Boy Advance Wars. Hein. C'est un jeu qui a très bien marché.
C'est un titre qui est très populaire, et c'est grâce à lui qu'il y a eu Fire Emblem en Occident. Hein. Faut pas oublier ce détail.
Après, franchement, voilà, à part justement bah, du coup, ces deux jeux-là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment habituel. Après, c'est plus aussi du genre de jeu qu'on va retrouver chez les joueurs PC, pas trop chez les joueurs console.
Mais... Oui, et là, j'ai l'impression d'ailleurs, je me permets que les mecs ont vraiment bien bossé l'ergonomie. Parce que ça avait l'air super jouable à la manette, ce qui est pas toujours si évident que ça. J'ai vu des gens essayer de jouer à la manette à XCOM, par exemple, c'est assez atroce.
Mais dans le cas d'XCOM, le premier sur, le premier du reboot,
Xbox 360.
Ouais, voilà. Apparemment, il était quand même plus agréable à la manette qu'au clavier.
Ah, c'est bien possible. Hein,
donc mais je pense qu'ils sont. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, ça a l'air beaucoup inspiré de cet épisode-là. Et c'est pas plus mal, hein, parce que la maniabilité était plutôt chouette. Et voilà, de toute façon ça reste du tour par tour, donc c'est quand même plus facile à jouer à la manette que du temps réel.
Si vous voulez, à mes yeux, ce jeu ça va être un peu être une sorte de porte d'entrée vers le jeu stratégie de ce style au tour par tour, à l'occidental. Et c'est une bonne chose parce que l'ADA, les graphismes sont super beaux. Enfin franchement, on est d'accord, Mortal, c'était
je pense pouvoir dire sans me tromper, que on va dire Super Mario Odyssey, mis à part, parce que on va dire que c'est un cas un petit peu particulier, voilà. C'était probablement le plus beau jeu qu'on ait vu sur cet événement post-E3.
C'est aussi celui qui est le plus proche de sortir, peut-être.
Et il sort le 29 août. Donc en fait, non, il y a Splatoon 2 qui va être juste avant. Oui. Il y a Epic Mickey un Arms. Petit peu avant, mais il y a Arms qui est déjà sorti. Voilà. Mais franchement, c'était un des jeux les techniquement les plus aboutis. Il y avait vraiment des effets de motion blur, il y avait des textures super précises, il y avait
des beaux effets,
un peu partout. Il y avait... Franchement, le jeu, il éclate bien la rétine. Et en plus...
C'est une très jolie DA, surtout.
Et en 1080p, il est bluffant. Alors, je sais pas ce que ça va donner sur Switch tout court, sans dock. Parce que ça, on l'a pas vu. Autant Super Mario Odyssey, il y avait les deux versions. Il y avait la version sur télé, grand écran, et la version 720p sur écran, l'écran de la Switch, ça marchait bien. Splatoon 2, on l'a vu sur télé, bon, il est égal à lui-même, il est très 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 joli, il n'y a pas de souci. Mais je pense que Mario et les lapins crétins, là, c'est celui qui, moi en tout cas, le plus accroché à la rétine, il est vraiment magnifique.
Donc plutôt une bonne pioche et un jeu à tester en août quand il sortira.
Je pense que ça peut être une excellente surprise, en tout cas. Le truc a toutes les cartes en main pour faire un très 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 bon jeu quoi qu'il arrive.
Juste pour conclure, du coup, à mes yeux, c'est un peu comme Pokémon qui est une initiation RPG. Là, c'est une initiation au jeu stratégie. Et surtout, c'est fait pour les joueurs Nintendo. Tout a été conçu pour plaire en public Nintendo habituel.
Il y a du fanservice dans tous les sens.
C'est déjà,
et du bon fanservice.
Oui, il y a Mario, c'est sûr, mais même en général sur les mécaniques et tout. Enfin, tout est bien fait en fait. Et tout est un peu la sauce Nintendo.
Voilà, tout reste relativement. Bon. En plus, ouais, voilà, tout est cohérent par rapport à l'univers. C'est-à-dire que Mario, certes, il a un pistolet, mais il bouffe des champignons. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui fait que l'univers est, que je trouve, assez cohérent. C'est-à-dire pour un truc où c'est une faille spatio-temporelle amène les lapins crétins chez Mario et tu te dis what the fuck, en fait non, ça tient plus ou moins la route, c'est pas si débile que ça. Donc
tu veux dire que c'est pas si crétin.
Tu regardes, sors, la porte est là-bas en fait, et non mais voilà, c'est je pense ça risque d'être une très bonne surprise. On
a sa petite conférence.
Ouais, on a la petite conférence et puis on finira sur Super Mario Odyssey parce que voilà. On a vu une petite démo de Yoshi, qui n'a pas encore de titre, qui est juste magnifique d'ailleurs, et qui est très amusant puisque tu as effectivement l'endroit et l'envers du décor systématiquement. Alors là, la démo était un peu particulière puisque le mec devait faire tout l'endroit du décor avant de pouvoir passer sur l'envers du décor. Et le look papier cartonné, découpage et tout, ça marche super bien. Et cette idée d'envers du décor est quand même vachement intéressante parce que tu as tout un tas de trucs. Quand tu fais l'endroit du décor, en fait, tu te dis « Ah oui, merde, ça c'est coincé, ça c'est coincé, ça c'est coincé. » Et en fait, quand tu fais l'envers du décor, tu te rends compte que oui, c'est coincé parce que derrière, il y avait un masque-casse qui faisait ça, et ainsi de suite. Donc il y a plein d'idées de gameplay originales possibles. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse passer de l'endroit à l'envers du décor un peu n'importe quand. Ce serait vachement plus rigolo que là, ce que le mec a fait, c'est-à-dire je fais l'endroit, puis je fais l'envers.
Ah, c'est pas comme Super Paper Mario où tu le faisais quand tu voulais.
Voilà, là, là, sur la démo, en tout cas, c'était pas comme ça. On a posé la question pour savoir, on nous a dit, bah, ça dépendra peut-être des niveaux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils en savaient pas forcément beaucoup plus que ça. Donc voilà, le jeu a l'air d'être super joli, très agréable à jouer. Bon, comme tous les jeux Yoshi, à mon avis, ça va pas être très compliqué. Mais c'était vraiment magnifique, et ce qui est rigolo, c'est que quand tu es sur l'endroit du décor, tu vois effectivement l'espèce de diorama en carton, super gamin et tout, et quand tu es sur l'envers du décor, en fait, quand tu regardes bien le fond du décor qui est un petit peu flou, tu vois une fenêtre, un tableau noir, des lettres de l'alphabet, donc t'as l'impression d'être dans une salle de maternelle en fait. C'est le genre de détail qui est juste assez marrant, parce que finalement Yoshi se balade vraiment dans un décor qui est fait dans une salle de maternelle, c'est un diorama qui a été fait par des gamins de maternelle. Et quand t'es sur l'envers du décor, tu vois qu'en réalité tel bloc, c'est pas un bloc, c'est une boîte de lait qui a été découpée, donc du coup elle est mal découpée derrière parce que bon, on s'en fout, on n'est pas censé le voir. Tu vois les bouts de scotch, tu vois les trucs qui n'ont pas été peints en entier. Enfin, il y a vraiment tout un tas de détails qui fait que c'est très joli, c'est très agréable à jouer, et je pense qu'un petit peu comme Yoshi's Woolly World, qui était vraiment un émerveillement pour les yeux et plein de détails super super mignons, ça va être un jeu comme ça. Ça va être un jeu super mignon. Alors peut-être pas ultra challenge, super intéressant, mais comme tous les jeux Yoshi, finalement, c'est des jeux qui sont très mignons, très jolis, et puis des fois ça suffit quoi.
C'est ça.
On a eu juste avant une petite démo de Xenoblade Chronicles 2, à laquelle je pense pouvoir dire, Drosgar, sans trop me tromper, qu'on a à peu près rien bité.
Alors si, à un moment, il y avait un truc, il a eu en double, deux fois le même, alors que normalement ça s'est jamais fait avant, et en plus il parlait anglais.
Voilà.
En gros.
En gros, c'est ça. Non mais, enfin, alors apparemment tu es un conducteur, Donc, tu es un driver.
C'est ça.
Tu as des blades, donc des lames, qui sont en fait des espèces de d'esprits qui t'aident à attaquer.
C'est un peu comme un gros sein.
Oui, aussi. Oui.
Parce que why not ?
C'est un peu comme les stands de Jojo, en fait.
C'est ça.
Et chaque blade, en fait, a trois arts que tu peux équiper, enfin, que tu peux balancer. Et quand tu balances ces arts, ça en charge un troisième qui est une espèce de spécial. Et le spécial, il fait très très mal. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai compris. Les mecs ont beaucoup beaucoup insisté sur le fait que l'interface était plus claire, plus épurée,
ça
plus
pouvait
machin.
Pas être pire.
Oui, alors déjà, un, ça pouvait pas être pire. Deux, j'ai quand même rien bité. Et le problème, c'est qu'ils ont enchaîné sur Yoshi derrière, et que, du coup, nous, on était perdus, quoi. C'est-à-dire que ben, Yoshi, pourquoi il déploie pas son blade, mais il a quoi comme art?
J'avoue que ce Xenoblade 2, je sais pas trop comment ils cherchent à le présenter. J'ai l'impression que même Nintendo sait pas trop comment l'expliquer.
Ça m'a l'air d'être très compliqué. Voilà, on va faire clair. Ce qui est objectif, on va dire. La DA est étrange.
Et
elle est étrange.
Ouais, voilà, je pense que s'arrêter là, c'était pas mal.
Elle est vraiment étrange. Par contre, l'univers a l'air beaucoup plus sympa que celui de Xenoblade Chronicles X. Qui était sympathique, hein, sans problème, mais peut-être un peu un petit peu trop stérile, entre guillemets, je sais pas comment.
Mais il y a pas de...
Là, le fait que ce soit sur deux géants dans le ciel qui bougent encore, parce qu'ils bougent leurs mains, ils bougent leurs pieds et tout ça, enfin voilà, je trouve que ça c'est sympa. Et pour le reste, eh ben, on a vu une partie de forêt, une partie de machin. Il y a quelques trucs qui ont été améliorés. Tu vois les ennemis qui sont agressifs, ceux qui ne le sont pas. Mais je ne sais pas quoi en penser. Je ne connais pas assez Xenoblade pour pouvoir en parler vraiment. Les gens qui étaient autour de nous avaient l'air d'être à peu près aussi penauds que nous l'étions, je pense. Et voilà, je ne sais vraiment pas trop quoi en penser.
Mais c'est ce jeu... j'attends de voir comment ils vont le présenter par la suite, mais j'avoue que même moi j'ai un petit peu du mal à savoir ce qu'ils veulent faire, de quoi ça va parler. On en sait vraiment pas beaucoup pour un jeu qui sort en fin d'année, et en plus ça reste un RPG qui est plutôt massif et qui demande un peu de temps pour bien le comprendre, donc je pense que la présentation était peut-être pas le meilleur moment à l'E3, quoi.
Bah, je sais pas, en fait, le problème, c'est que c'est quand même des jeux qui sont extrêmement complexes dans leur mécanisme, et que ça va peut-être parler aux gens qui ont fait le 1 et le X,
mais... Je t'avoue que même moi, ça me parle pas tant que ça, mais... parce que en vrai, j'arrive... Enfin, le X, j'ai compris le concept direct, parce que pour moi, ça... Une planète, des robots, un truc à explorer, ok, c'est bon, ça, je pige. Là, je sais pas trop où ils veulent en venir.
Là, on n'en sait pas tellement sur l'histoire, les personnages. On nous a vraiment présenté juste le système de jeu et nous dire, regardez, il y a des villes, il y a des plaines, il y a des montagnes, il y a des combats, quoi.
Puis il y a des arts, il y a des blades, il y a des drivers.
Et des drivers, et apparemment, on peut croiser d'autres drivers. Et des fois... En fait, ça m'a beaucoup plus fait penser à un Monster Hunter qu'à... Alors, j'ai fait quand même 15 heures sur Xenoblade Chronicle X, tout en direct sur Twitch, hein, je précise. Je n'ai joué qu'en direct.
Pauvre viewer.
Non, bah, j'en avais beaucoup, figure-toi, des viewers.
Oui, justement, j'ai plein.
Bah oui, mais et j'ai eu même de très très bons conseils en direct de gens qui m'ont dit « Mais non, mais fais pas ça, mais t'es complètement con !» Donc ça m'a fait très plaisir. Et de gens qui m'ont dit « Mais t'as trop pas le niveau !» Et en fait, j'ai totalement barbé le jeu. donc moi, ça me fait marrer quand on me dit « Mais t'as pas le niveau pour faire ça !» Et qu'au bout du cinquième essai, j'arrive à barber le truc, simplement parce que j'ai coincé un mec derrière un arbre et je lui ai bourré le cul, quoi. Bref. Mais et j'ai pas tout compris, j'ai pas trop accroché, donc je pense qu'il faudra quand même attendre de voir ce que donne le jeu complet en réalité, ce qui est un peu triste. Alors par contre, ce que je ne sais pas,
ce qui est normal pour un RPG, je pense.
C'est peut-être normal, hein. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si ce sera. Ah tiens, Zergy nous a quitté. Au revoir, Zergy. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est une sortie fin d'année Japon et pour le reste du monde un petit peu plus tard, ou si c'est tout le monde à peu près en même temps fin de l'année, auquel cas ce serait quand même assez balèze.
Normalement, c'est censé être fin d'année pour tout le monde. Ils ont dû travailler, s'ils ont fait la loca un peu en avance, c'est faisable. Hein.
Oui, c'est faisable.
C'est faisable, mais du coup... Surtout, le jeu a commencé son développement avant la fin du X. C'est possible que...
Ouais, effectivement, les mecs, ils ont déjà 2 ans ou 3 ans de développement dans les pattes.
Apparemment, quoi. C'était 2014. Le début du développement, alors je sais plus si c'est début ou fin. Et du coup, c'est envisageable, je pense, qu'ils aient fait les deux... ils ont fait le X et après, ils ont enchaîné sur la localisation du 2 en parallèle du développement. Un peu comme ce qu'a pu faire Nintendo avec Fire Emblem Echoes, qui est sorti un mois après la version japonaise, alors que d'habitude, c'était 1 an, quoi.
Oui, d'habitude, c'est plutôt 1 an. Donc, ce serait quand même une bonne nouvelle. J'ai vu pas mal de gens qui pariaient plutôt sur un retard de Xenoblade 2 en disant non, c'est juste pas possible de sortir un jeu aussi massif. Mais
ça me surprendrait pas.
Ça me paraît peu probable.
S'il y a un jeu qui devait être décalé à 2018, ce serait lui.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pariaient sur le fait qu'il sortirait probablement pas en 2017. Moi, j'ai l'impression que le truc, ce qu'on a vu était plutôt techniquement abouti, manquait des morceaux. Mais notamment, il y a un moment où il y a un mec qui révèle un cristal dans lequel il y a un Blade qui a des pouvoirs aléatoires. Putain, j'ai vraiment rien bité à ça.
Ouais, non, mais je pense que vaudra mieux attendre la sortie du jeu à la fin de l'année, enfin à l'hiver en tout cas.
Pour les vrais fans.
Pour avoir une vraie raison, un vrai avis.
Voilà. On a enchaîné ensuite sur malheureusement une démo pas jouable de Metroid Samus Returns. Alors je pense que vous avez tous vu la démo si ça vous intéresse. Donc c'est effectivement un remake de Metroid 2. Ce qu'on a posé comme question très simple, c'était est-ce que la carte est plus grande ou est-ce que c'est vraiment la même ? Ce qu'on nous a répondu, c'est...
Tu verras.
Non, on a fait ça façon zéro mission, c'est-à-dire c'est la même carte, mais avec des éléments de gameplay ajoutés et avec peut-être 2 ou 3 surprises.
Oui, alors zéro mission, la carte était plus grande.
Zéro mission, la carte était plus grande.
Non, il a pas dit que ce serait façon zéro mission, il a dit justement que la carte était la même, mais que le développement n'est pas fini, donc on n'est pas à l'abri de surprise. Pour l'instant, on sait pas du tout.
Le jeu sort en septembre, le développement est terminé.
Je pense aussi.
Enfin, il doit être
c'est ce qu'il nous a dit après, mais il n'est pas au courant de tout, comme d'hab.
Il n'était pas au courant de tout. Le jeu a l'air vachement sympa. Enfin, moi, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment plu. Alors, le fait de viser n'importe où sur l'écran, ça faisait assez bizarre au départ, mais au final, ça avait l'air plutôt sympa à jouer. Et le système d'esquive contre-attaque, ça a l'air vraiment ultra dynamique et bien sympathique. Donc c'est un peu une espèce de synthèse entre Other M qui était finalement très action mais où l'exploration était un peu cucul à praline, et là t'as l'impression de retrouver un Metroid Fusion pour le côté exploration, ouverture de passage et autres, portes bloquées machin, et le côté Other M pour le côté un peu plus action. Et ça a vraiment l'air sympa, et Samus a vraiment l'air de bien bouger, d'être très souple. Elle peut contrer quand elle est en l'air, elle peut contrer quand elle est accroupie. Franchement, le jeu, il a l'air de largement tenir ses promesses. Techniquement, ça tient la route. L'ADA est très sympa. Moi, je pense qu'on va avoir aussi, fin septembre, une bonne pioche. Et en plus, en Europe, on a une édition collector qui déboîte sa grand race.
Putain, mais tellement je la veux, mais celle-là, c'est sûr.
Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter de Rosgar là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu l'essayer, donc c'est un peu dommage, mais ça avait vraiment l'air d'être juste... Voilà, c'est simple, clair, facile, efficace.
C'est juste que... on nous a beaucoup montré, en fait, la parade, enfin, le contre, t'as mis ça un peu comme tu veux,
ouais,
et ça m'a un peu gonflé, justement, qu'ils se contentent beaucoup avec ça, parce que ça rend le jeu assez facile.
C'est ce qu'ils avaient fait au Treehouse, d'ailleurs, ils avaient surmontré ce truc, t'avais l'impression qu'il y avait que ça.
C'est ça le problème.
Bah, après, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. Simplement, effectivement, le truc avec cette parade, c'est que faut quand même l'exécuter au bon moment.
C'est ça.
Et apparemment, le timing a pas l'air d'être si simple que ça. C'est-à-dire que le mec, là, on a quand même raté 2 ou 3 parce qu'il a pas frappé assez tôt. Il faut quand même que les ennemis viennent t'attaquer, c'est-à-dire viennent au corps à corps. C'est pas le cas de tous les ennemis.
Oui, et puis comme il nous l'a dit, il y a des ennemis qui sont plus ou moins rapides, donc le timing va jamais être le même en fait. C'est sûr que là au début on a vu que les ennemis basiques du jeu, donc ça semblait facile. Peut-être que plus tard dans l'aventure on devra moins s'en servir. Mais justement je trouve que ça nous sert. Ça nous pousse un peu moins à utiliser notre canon, et sur la fin de l'aventure on va se trouver un peu comme des cons à devoir apprendre à jouer avec le canon alors qu'on a fait la moitié juste avec le contre.
Ouais, on verra bien, mais moi je trouve ces mécaniques de corps à corps assez sympa, parce que moi ce que j'ai. Enfin. Bien aimé d'Overhead, mais qui est pour moi le truc à garder pour la série, c'était ce côté un petit peu dynamique.
Un peu Ninja Gaiden, quoi.
Voilà, c'est ça, un côté un peu plus jeu-action, qui facilitait beaucoup le jeu, on va pas se mentir, hein, mais qui du coup était plutôt chouette et apportait un peu plus de vivacité à Samus. Et puis on nous dit que c'est un personnage qui a beaucoup d'entraînement et tout, et qui a des capacités physiques plus fortes que celles d'un humain, normalement. Donc pour moi, ça paraît cohérent qu'elle puisse faire ce genre d'action. Et et je repensais d'ailleurs au grappin qu'on avait dans Prime 3 qui permettait de retirer les boucliers. Et moi, c'est le genre de choses à l'époque. Alors, j'avais pas fait le constat, mais je crois que c'était un mec sur Nintendo Man qui nous avait dit, c'est dommage qu'on puisse pas s'en servir pour déstabiliser les ennemis ou ce genre de choses. Et c'est le genre de truc que je trouverais cool de voir dans Metroid 2, enfin dans ce remake et peut-être dans de futurs épisodes, c'est-à-dire un aspect un peu corps à corps, tout l'arsenal de Samus
et pas que son canon. Un poil plus combat. Entre guillemets, combat corps à corps, effectivement, c'est finalement aller reprendre des éléments de Beat'em All type Devil May Cry, c'est-à-dire t'as un canon donc tu peux tirer à distance, mais t'as des éléments un petit peu plus corps à corps, et je trouve ça plus intéressant qu'un QTE à la con, comme on en avait quelques-uns sur Metroid Prime 3, puisque là t'as vraiment, c'est parade contre-attaque, et ça va vite, c'est dynamique, ça marche bien, ça fait des dégâts aux ennemis, c'est effectivement, faut apprendre à jouer avec en plus, je pense que ça va le faire. Comme je pense qu'il est bien parti, de toute façon ça sort au mois de septembre et je pense que ça va être un gros succès depuis le temps que les gens réclament et un remake de Metroid 2 et un nouveau vrai Metroid en 2D, le fanservice est assuré à mon avis. Si évidemment le jeu tient la route en termes de durée de vie, ce qui pour l'instant reste quand même un mystère. Et on va terminer avec Super Mario Odyssey, comme ça me permettra de finir cette émission fleuve.
Au final j'ai pu l'essayer deux fois, une fois sur tablette et une fois sur vrai écran.
Est-ce que tu as pu essayer du coup les deux niveaux ou pas ?
Oui, voilà, j'ai fait sur... En fait, on avait deux niveaux à notre disposition. Le niveau un peu mexicain, qui en fait, j'avais pas trop remarqué pendant le 3, enfin pendant la vidéo de 3, pardon, est totalement glacé. Et en fait, j'ai remarqué au début, parce que j'ai vu que Mario se tenait de façon un peu bizarre, comme s'il se tenait les bras. Et en fait, j'ai remarqué peu à peu que le sol était entièrement gelé. Donc le désert rouge, tout, il y avait de la glace partout. Et le deuxième monde était bien entendu la fameuse ville où tout le monde criait au Sonic 2006, avec les humains qui ne ressemblent pas du tout à Mario, ce qui fait un contraste assez étrange. Donc Mortal, toi dans mes souvenirs, t'as fait le Mexique,
c'est ça ? J'ai juste fait le Mexique, parce que apparemment New Donk City c'était plus une espèce de niveau débutant pour montrer un peu les mécaniques, je me suis dit bon les mécaniques je les comprends donc... Voilà, puis moi j'avais envie de faire Mario en sombrero.
T'en as pensé quoi alors ?
Meilleur costume
jamais. D'un point de vue gameplay, c'est quand même de la boulette de balle, au sens où alors faut aller ramasser des lunes qui sont réparties un petit peu partout dans le niveau. Et en fait, je pense que les démonstrateurs ont dû le voir, il y a au moins 3 ou 4 façons différentes de choper chaque lune. Parce que il y a une lune qui était un peu loin, en fait tu peux lancer ton chapeau, aller bondir, de faire un saut en longueur dessus, aller bondir sur un autre truc pour aller choper la lune, ou alors tu peux aller prendre le bilbourin qui est pas très loin, le chapis morphé, et aller jusqu'à la lune, tout connement. Enfin, t'as vraiment pas mal de possibilités. Moi, ce qui m'a peut-être un peu plus choqué, c'est le côté motion control. Alors, je sais qu'on peut s'en passer, mais j'ai l'impression que ça risque peut-être de compliquer certaines phases. Alors, pour expliquer le principe, en fait, avec le Joy-Con de droite, quand tu donnes un coup de chapeau, c'est-à-dire tu donnes vraiment comme si tu allais lancer un frisbee, quoi, en gros, tu lances ton chapeau normalement. Si tu fais un mouvement de type essuie-glace avec ton Joy-Con de droite, en fait, tu vas lancer ton chapeau, mais il va faire le tour de Mario deux ou trois fois, donc éliminer tous les ennemis qui sont aux alentours. Et le dernier truc, c'est tu balances ton Joy-Con vers le bas, et à ce moment-là, Mario balance le chapeau vers le bas, dans une espèce de mouvement rétro, un petit peu façon yo-yo, finalement, il le balance, pouf, il revient. Et sur la tranche du chapeau, c'est-à-dire que le chapeau est balancé finalement à la verticale complet, et pas à l'horizontale comme le mouvement normal. Tu peux aussi juste appuyer sur le bouton Y pour balancer le chapeau.
Ouais, heureusement, parce que quand on m'a dit qu'il y a du motion control pour lancer le chapeau, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire dans le métro ? À part avoir l'air débile.
C'est un peu ça. Alors moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je n'ai pas vu pour l'instant la possibilité de faire le lancer de chapeau standard, qui est vraiment vous agitez le Joy-Con comme lancer un frisbee ou appuyer sur le bouton Y, ok. Mais les deux autres types de lancer, je ne sais pas si ce sera faisable de les faire juste
faut
à la manette.
Peut-être faire des quarts de cercle.
Peut-être. Mais je ne sais vraiment pas. On ne nous a pas montré spécifiquement. J'ai pas trouvé par moi-même. Donc je sais pas ce que ça va donner. En termes de DA, le monde mexicain était sympatoche, mais pas foufou au final. Techniquement, le jeu est quand même très joli. Il y a un petit peu de scintillement, malheureusement. Alors, est-ce que c'est la démo ? Est-ce que c'est autre chose ? Je trouve qu'il y a quand même encore un petit peu de scintillement sur certains trucs. Mais c'est vraiment pinaillé, hein, je veux dire, voilà. Ce que je trouve sympa, c'est le côté monde complètement ouvert, c'est-à-dire finalement dès que t'as une idée à la con, tu peux y aller, ça va marcher à peu près à tous les coups, ça ressemble vraiment à Zelda pour le coup, c'est-à-dire, est-ce que je peux prendre possession de cet ennemi? Oui, allez hop, c'est parti, et tu fais des trucs de fou avec.
Moi c'est ça que j'espère pour ce jeu, c'est le même genre d'expérimentation et de liberté d'interaction qu'on avait dans le dernier Zelda.
Alors, la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que c'est pas tout à fait vrai.
Ouais, je pense que c'est pas aussi poussé vu le concept.
Voilà, parce que par exemple, il y a certains Goombas dont tu ne pouvais pas prendre possession déjà.
Ah.
Petits Goombas, tu pouvais pas, les gros Goombas, tu pouvais.
Ok. Ah, c'est dommage, les petits, ça aurait pu être marrant d'avoir des trucs cachés en
fait. Oui, voilà, ça aurait pu être rigolo, mais bon.
Donc, tu peux pas prendre possession non plus des personnes ou des ennemis qui ont un chapeau.
Ça, oui, c'est bien. Ça, je trouve ça bien.
Ça, c'est rigolo.
Ça, c'est bien vu, par contre.
Mais en fait, c'est donc voilà, techniquement le jeu il est enfin voilà, il tient sa mère la route. Alors c'est comme d'habitude avec Mario, hein, c'est pas la grosse claque technique, mais le truc est propre, clean, la DA est impeccable. À part ces quelques petits problèmes de scintillement que j'ai vu sur le désert, globalement, il y avait quand même pas grand-chose à lui reprocher.
Il y a moyen que ce soit optimisé d'ici octobre.
Tout à fait, il y avait quand même un poil d'aliasing aussi. Sur grand écran, j'ai pas joué sur Switch, j'ai vraiment joué juste sur télé, donc il y avait un poil d'aliasing qui se voyait un petit peu. Mais voilà, et les histoires de changement de tenue et autres, ça a l'air très sympa. Bon, d'un point de vue gameplay, c'est Mario, donc ça répond toujours au poil, on a à peu près toujours les mêmes mouvements. Il y a un nouveau mouvement quand même, quand tu fais les maracas avec les Joy-Con, Mario se met à rouler sur lui-même et c'est infini en fait, donc tu peux faire des espèces de roulades infinies. Je sais pas si ça blesse les ennemis, mais en tout cas ça va très très vite, donc du coup si t'as envie de parcourir, le speedrunner le niveau, en gros, va falloir faire de la roulade. Pareil, je ne sais pas si c'est faisable sans motion control. Donc ça, moi jusqu'à présent, l'inquiétude que j'ai, c'est juste ça. Il y a quelques mouvements, j'ai peur que ce soit pas faisable sans motion control, et si c'est le cas, ça va peut-être être un peu pénible. Surtout que là, on avait deux Joy-Con séparés pour y jouer. Je ne sais pas ce que ça donne si on a juste un contrôleur pro.
Ben ouais, et puis même juste les deux manettes ensemble.
Ou juste les deux manettes ensemble, et...
Secouer pour faire la tourpille dans Mario Galaxy, ça allait, parce que la Wiimote, elle est à part, mais là...
Bah là, si tu joins les deux, voilà. Donc moi, techniquement, le truc tient la route en termes de DA, c'est très bien. En termes de gameplay, d'exploration et tout, ça a l'air assez ouvert. C'est pas la folie façon Zelda, mais ça a l'air d'être quand même suffisamment ouvert pour que le démonstrateur, j'ai été chercher un bilbourin pour récupérer une lune, il avait vu personne jusqu'à présent faire ça. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour arriver à choper les trucs. Si t'es un peu malin et un peu observateur, tu peux faire plein de trucs rigolos. Donc j'ai pas de soucis, ça a vraiment l'air fun. Tout ce qu'il faut, pas de problème. Moi, le seul problème qui me gêne un petit peu, c'est aujourd'hui, c'est en termes de maniabilité. Je me dis peut-être que il y a peut-être 2-3 trucs qui vont être un peu limite. Ouais. Mais voilà. Bon, je vais laisser Drosgar,
on verra en jeu.
Du coup, il y a plus joué que moi.
Après, justement, j'apprends à peu près la même chose que toi. C'est vrai que le motion control, je m'en étais même pas perçu. En fait, il a fallu que tu me le dises pour que j'essaie sur ma deuxième run. Parce que de moi-même, j'ai pas forcément l'habitude d'aller bouger les manettes. J'ai même pas été tenté, en fait, de le faire. Et c'est vrai que je peux comprendre ton inquiétude là-dessus, et j'espère qu'il y aura quand même à chaque fois des solutions, surtout pour une console qui se veut portable, quoi. C'est pas comme la Wii où on était vraiment assis dans son canapé.
Moi, ce qui me choque, c'est que j'ai essayé des trucs. C'est juste pour dire. Alors après, c'est peut-être la démo, hein. Mais quand tu sautes, par exemple, et que tu appuies sur Y, Mario lance son chapeau vers l'avant. Et je me suis dit, si je veux le lancer vers le bas, en fait, faut que je donne un coup de Joy-Con droit vers le bas. Donc j'ai essayé, je saute, je donne un coup de Joy-Con droit vers le bas, effectivement le chapeau part vers le bas, donc il balance son chapeau à ses pieds en gros, pour aller frapper ce qui est en bas de lui. Et je me suis dit, si je saute et que je fais Y et bas, il va peut-être balancer son chapeau en bas, et ben non. Du coup, voilà, ça me... Je suis pas sûr.
Je comprends, et j'espère qu'ils vont trouver une solution. Après, sur le reste du jeu, du coup, autant la partie dans le désert était assez sympa, ça reste du classique en fait, on dirait un peu une sorte de Mario 64 avec juste les petits gimmicks, les nouveaux gimmicks en plus, dont la partie 2D qui flatte un peu le rectum des rétro gamers et des vieux comme vous. Après,
moi,
pour la partie.
Ça m'excite pas, ce genre de truc, personnellement. Je trouve ça rigolo, mais ça va pas plus loin.
C'est assez rigolo,
ils ont fait l'effort de refaire un sprite pour chaque costume.
Exactement.
Ça, c'est sympa.
Ils sont quand même bien cassés le cul, et le truc est pas, y a pas de quoi se relever la nuit, mais c'est quand même un clin d'œil sympa. Ils en abusent pas. Voilà. C'est quand même le plus important, je trouve, dans ce genre de cas-là, c'est que ça reste un clin d'œil, mais que ce soit pas le fond du truc, quoi.
C'est ça. J'espère que ce sera pas juste trop souvent. Après, pour la ville, franchement, je suis encore mitigé. Autant au niveau level design, où au final bah, on est assez limité dans nos actions, parce que bah, forcément Mario fait pas des bons gigantesques, donc si tu veux monter sur des immeubles, bah, soit il y aura toujours des petites caisses cachées où tu pourras monter caisse par caisse, soit il y aura des petits poteaux, en fait des sortes de poteaux orange qui seront directement à l'horizontale sur les murs, qui n'ont rien à faire là d'ailleurs, donc au niveau réalisme il y a mieux. Bon après vous me parlez du réalisme dans Mario,
oui,
il
voilà.
Y a aussi. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'il y a un mec qui avait essayé Fire Emblem Warriors juste avant moi, et qui se plaignait du manque de réalisme du jeu. Et en fait, le seul jeu qu'il a apprécié de tout l'événement, c'était FIFA.
Du coup, est-ce que t'as vu son badge press PlayStation Magazine?
Ça aurait pu être ça, ou alors Gameblog, mais... Non, on a arrêté de taper sur Gameblog.
Non, Gameblog, c'est bien quand c'est poétique.
Au final...
Moi, quand un mec me dit que Final Fantasy XV est poétique, j'ai quand même du mal.
Si, c'est la poétique du vide.
T'as pas vu la version VR phishing de Final Fantasy XV? C'est de la poésie, mec.
Ah ouais, c'est de la poésie pour ton portefeuille.
Non, c'est une square.
Voilà, excuse-nous dans ce garage.
Non, t'inquiète pas. Au final, autant sur la DA, vraiment, j'ai encore un peu de mal pour l'instant avec les humains qui n'ont pas la même forme que Mario. Je pense que c'est un coup à prendre et il faut vraiment comprendre comment marche l'univers. Mais c'est vrai qu'à côté, on a du coup Pauline, la mère... Enfin, le maire de New Donk City, qui est un peu dans le même style que Mario. Pas pareil forcément, parce qu'elle est plus grande, donc elle est plus dans le style de pitch, mais elle n'a rien à voir avec les autres. Ce décalage est assez flagrant. Et pour revenir justement au level design, il y a toujours en fait, des petites astuces qui fait qu'on va pouvoir monter, mais c'est tellement artificiel que bah, on voit que Mario n'était pas fait pour être dans une ville comme ça. Autant un village, je veux bien, ça aurait été à peu près logique, même avec des voitures, même avec des humains, on s'en fout au final. Mais là, c'est vrai qu'une ville aussi haute... Le gameplay n'est pas spécialement adapté à ça de ce que j'ai vu.
Tu peux c'est pas rebondir entre deux murs, deux façades d'un immeuble pour monter tout en haut ou pas?
Et ben, les façades sont trop loin.
Oh non, il déconne.
Alors après, bah, on n'a pas eu le temps de tout voir non plus, mais bon.
Alors après, il y a peut-être des astuces. On n'a peut-être pas tout compris non plus. Hein, tu vois, les démos étaient quand même limitées en temps. J'ai l'impression d'ailleurs que les niveaux avaient été un petit peu sabrés parce que. New Donk City, ça faisait comme des mini portions de niveau un peu étriquées, donc c'était un peu bizarre. Alors que le désert était beaucoup plus ouvert. Donc, je sais pas si c'est pas si évident à juger que ça. Je veux dire, je pense que ça va être une bonne pioche de toute façon parce que c'est un Mario. Il n'y a pas de raison que ça se banane.
Bien
c'est vrai que pour l'instant, il y a deux ou trois incertitudes où je me dis effectivement la verticalité sur les niveaux villes ça n'a pas l'air si bien exploité que ça. Et en termes de maniabilité, il manque quand même des morceaux.
Ok. Je me souviens que l'année dernière, avec Zelda, on avait quand même quelques doutes sur 2-3 aspects du jeu aussi.
Et au final, on a pris une grosse claque dans la gueule.
Moi, ce sera le même cas ici.
Je reste globalement assez confiant, parce que ce que je vois quand même me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que, pour avoir lu un petit peu la presse, c'est peut-être un peu moins, on va dire, pas la presse américaine, hein, parce qu'eux, ils sont conquis, ils sont fans. Mais tout ce qui est fraise un peu française, c'est vrai que c'est pas que c'était mitigé, mais je sentais que les mecs étaient pas complètement. Donc. De quoi
6 sur 10 sur Gamekult.
Ouais, facile. Tu sentais que les gars étaient pas totalement enthousiastes. Il y avait des réserves.
Il y avait un petit peu de réserves, et je pense qu'en fait, ces réserves, on les exprime aussi un petit peu. C'est-à-dire que. On a bien senti effectivement que la presse anglophone et notamment américaine était totalement conquise. Alors c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 détails que je trouve. Alors c'est pareil, c'est pas un deal breaker comme disent nos amis américains. C'est pas ça qui va faire que ça se vendra pas, qu'on l'achètera pas et que ça va être de la merde. Mais ça fait un peu bizarre.
C'est peut-être ce genre de détail qui fera que ça ne sera pas le jeu de la décennie, mais juste un bon jeu ou un très bon jeu. Après, voilà, là aussi le souci c'est qu'on était en période de démo, il y avait les gens qui faisaient la queue derrière, donc on est un peu stressé, on n'est pas en bonne condition pour tester les jeux, c'est sûr. Surtout un jeu comme ça qui était très attendu. Forcément pour Pokken, t'as tout le temps que tu veux, t'es tranquille. Donc je veux pas non plus partir totalement négatif, et dans tous les cas j'achèterai, c'est sûr. Mais je préfère avoir quelques réserves pour l'instant, plutôt que d'être déçu par la suite. C'est ce que j'ai fait avec Zelda, au final j'étais plus que conquis quoi.
Oui, complètement, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Je pense. Alors, je suis désolé de terminer sur une note un petit peu en demi-ton, parce qu'on est un peu... voilà. Je tenais à remercier, juste avant qu'on arrête cette saison, puisque ce sera la dernière émission de la saison. Merci. On va se retrouver au mois de septembre assez tôt, en fait, parce qu'on a une émission de retard qu'on a promis la semaine dernière à M. Tomayo, qui était l'émission ARMS, parce qu'il va falloir qu'on en parle. Comme il y a quelques mises à jour qui vont arriver pendant l'été, on pourra en parler. Il y aura aussi Splatoon 2 qui va sortir cet été. Il y aura Mario et les Lapins Crétins qui vont sortir cet été. Donc on sait déjà qu'on a nos 3 ou 4 premières émissions de septembre qui sont remplies. Donc il n'y a pas de souci, on se retrouvera à la rentrée. Je voulais remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent en direct, même si ils sont en général peu nombreux en direct.
Vous on êtes peut les compter sur les doigts d'une main, et d'une main de Simpson, voire de Bowser.
Ouais, c'est possible. En général, vous êtes une petite dizaine à nous écouter en direct, ça nous fait très 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 plaisir d'avoir des gens en direct. Je tiens à remercier les 2382 personnes qui téléchargent le podcast, pas toutes les semaines, mais on va dire très régulièrement. Et ça nous fait très 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 plaisir aussi de voir que vous êtes nombreux, alors pas forcément de plus en plus nombreux à nous écouter, mais vous êtes en tout cas nombreux à nous écouter.
Réguliers surtout.
Il y a des gens très réguliers surtout.
Ça prouve qu'on fait pas que de la merde.
Pas que, c'est pas bien que. Précisé.
On
pas
en
que.
Fait.
On en fait beaucoup quand même. Si vous nous écoutez, alors j'espère cet été, pendant les travaux d'été, puisque on va faire une pause d'à peu près 2 mois, où il va y avoir pas mal de travaux sur le serveur. J'espère qu'on aura le temps cet été de s'inscrire sur Google Play, puisqu'apparemment les podcasts sont disponibles maintenant en Europe sur Google Play.
Ah.
Donc on va pouvoir être disponible sur Google Play assez rapidement pour les gens qui préfèrent utiliser ce genre de logiciel. Drosgar m'avait suggéré de planter le podcast sur Deezer, et ce sera fait aussi pendant l'été. C'était pas fait jusqu'à présent parce que malheureusement pas eu le temps de s'en occuper. Je suis désolé que le podcast de la semaine dernière soit pas encore disponible, j'ai vraiment été ultra chargé ce week-end et toute la semaine là, donc c'était très compliqué d'arriver à trouver une demi-heure, une heure pour faire un montage à peu près propre de ce qui s'est dit là, la semaine dernière, mais vous aurez les deux podcasts logiquement avant la fin de cette semaine. Voilà, si vous nous écoutez sur iTunes, je vous encourage, c'est pas du tout le genre de la maison d'aller demander des likes et des pouces bleus et des machins et des trucs, mais si vous nous écoutez sur iTunes, je vous encourage à aller nous noter, ça nous aide un petit peu à être mieux référencés, et ça permet de donner un petit coup de boost au truc, donc ce serait vraiment très gentil. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui nous écoutaient sur iTunes, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est Drosgar qui va nous faire la citation du jour, qui sera donc la dernière citation de cette saison. Drosgar.
Une fois n'est pas coutume, la citation est une citation réelle, que j'ai eu l'occasion d'entendre en fait il y a quelques jours, durant l'expo game que j'ai fait avec Galaxy. Le gamin justement qui nous a pourri sur Dance Dance Revolution était en train de jouer à Game Boy géante, parce qu'il y a une Game Boy géante avec un émulateur qui est assez sympa, en plein milieu de l'expo. On regardait un peu et on disait justement qu'on allait devoir en parler dans le dojo bar, et dans Nintendo Jeux, on parlait tous les deux Galaxies en fait. Et le gamin nous écoutait. Il nous a regardé, il fait « Mais pourquoi vous parlez de ça ?» Et Galaxies a dit « Bah parce qu'on est des sortes de journalistes si tu veux. » Il nous a regardé, il a fait, en me regardant droit dans les yeux, « Ah, vous êtes comme Julien Chiez en fait. » 11 ans.
Destroy.
Il vous a défoncé.
Il a pris ton ego, il l'a déchiré, il l'a réduit en miettes, et après il l'a foutu dans les égouts.
J'en perds encore.
Ah putain. Ok, merci Drosgar.
Merci Drosgar Chiez.
Voilà, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Désolé d'avoir été aussi long pour cette dernière émission, mais on essaiera de faire des émissions plus courtes à la rentrée.
On voilà. Est sur Paris.
Bref, c'est pas grave. Bisous tout le monde. Ciao.
Merci à tous.
Au mois de septembre. Bisous.
Bye.